Allez Bertrand, vas-y.
Allez, c'est parti, c'est le presque late show, on l'appelle comme ça désormais, c'est le numéro 2, on en a fait un il y a un mois déjà, et pour ce presque late show, on va vous proposer un menu complet, parce que c'est l'heure de manger encore. Menu complet avec 3 entrées, avec un plat de résistance et avec 3 desserts. Pour les entrées, on va parler de Grok, vous savez, l'IA lancée par Elon Musk pour concurrencer ChatGPT, cette vilaine IA très wokiste selon Elon Musk, et Grok, bah c'est marrant Grok. Enfin, c'est marrant, pas toujours d'ailleurs. Il y a un humour qui parfois laisse à désirer. On en parlera dans un instant. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer avec Grok. On parlera également de Meta qui veut faire payer un abonnement. Alors, ce n'est pas vraiment faire payer un abonnement, c'est surtout arriver à nous soutirer en fait, des autorisations, de continuer à nous piller allègrement et de rentrer comme ça à peu près dans un RGPD très, très tardif. C'est le moins qu'on puisse dire pour Meta. On va en parler. Et puis, le troisième plat qu'on vous propose en entrée, la troisième entrée, ce sera le rapport de transparence des réseaux sociaux qui vient à l'initiative de l'Europe, de la Commission européenne d'être donné, donc avec 19 plateformes qui ont rendu leur devoir. Il y a des choses intéressantes à raconter. Le plat de résistance, on va parler d'attribution. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, et si vous connaissez le terme d'attribution pour les IA, en fait, il s'agit simplement pour une IA générative de remonter vraiment la source de création, c'est-à-dire de faire du reverse engineering d'une certaine façon pour l'IA créative, et de savoir quand on crée une photo, par exemple, à partir de quelle véritable photo, quelle centaine de véritables photos a été créée celle-là. Et il y a une société qui est une société israélienne qui s'appelle Bria AI qui dit qu'ils sont en mesure de le faire. Ils ont fait une démo qui semble assez convaincante là-dessus pour remonter à la source. Et à partir d'une photo qu'ils demandent à une IA de créer, ils savent vous dire où ont été pillées les images, parce qu'il s'agit quand même à peu près de ça. Et évidemment, l'attribution, ça donnera ou pas des droits d'auteur demain. En tout cas, on saura d'où viennent les informations. Ça peut marcher aussi, évidemment, pour le texte. Et puis, en dessert, en fait, chacun d'entre nous, avec Fabrice, Damien et moi, apportera une mignardise, on va dire comme ça, qui n'a rien à voir avec le thème général ou les thèmes qu'on peut traiter, c'est-à-dire les nouvelles technologies globalement, le monde connecté. Et on vous apportera ça en dessert. À n'importe quel moment, vous pouvez évidemment intervenir. Donc, il suffit de lever la main, de demander à participer et de mettre votre pierre à l'édifice de ce numéro 2, donc du presque Let's Show. Bienvenue à tous, merci d'être là. Et c'est parti avec Grok, l'IA React2X. C'est un peu comme ça que tu as fait le titre, Damien, quand tu nous as proposé le fichier. Tu la trouves React, cette IA?
Je ne sais pas si elle est réac, mais...
Bon, on ne l'a pas encore, donc on ne sait pas pour l'instant.
Bah, c'est un peu ça.
Non, on ne sait pas, mais elle est présentée comme telle par son créateur, ou tout au moins celui qui veut, là, son instigateur, autrement dit Elon Musk. Puisqu'en fait, vous le savez, enfin, ce qui est amusant déjà, première chose, c'est, alors, dans un épisode passé des éclaireurs, je vous laisserai chercher hein, parmi nos 150 épisodes, il y a un épisode où on parle d'Elon, il y en a plusieurs, hein, donc bon,
oui,
bon
il y
courage.
En a à peu près 250.
Mais, voilà, mais en fait, dans un des épisodes, on disait, mais pourquoi est-ce qu'il a bien pu racheter Twitter? Et donc, en fait, une des hypothèses était de dire que Twitter est une magnifique base de données textuelles d'informations et que c'est un magnifique, ben, on va dire, data lake, autrement dit, une base de données qui permettrait de faire de l'entraînement pour une intelligence artificielle. Ça, c'était avant l'explosion de ChatGPT. Donc, quelque part, ben, comme ça nous arrive des fois, on n'a pas vu forcément tort, enfin, on a vu plutôt juste, puisqu'il veut lancer désormais Grok. Et donc, Grok, l'IA dite React de X, ou tout au moins, c'est comme ça que présente le présente Elon Musk, enfin Elon la présente plutôt comme une IA iconoclaste, amusante, humoristique et surtout qui n'est absolument pas comme ChatGPT, cette vilaine IA wokiste, gauchiste, qui, alors c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, hein, c'est qu'il y a des, il y a une étude qui a été faite par des scientifiques, je pourrais vous retrouver les références, mais c'est vrai, qui a testé en fait les réponses en fait de comment a été éduqué, on va dire, ChatGPT pour voir un peu justement dans quel camp politique, on va dire, cette IA pourrait se positionner. Et effectivement, ChatGPT est plutôt encline à être, on va dire, être plutôt progressiste, ne pas vouloir faire de vagues, être très inclusive, enfin bref, tout ce qui, on va dire, hein, à la louche, de côté américain, est vu sous la houlette de la gauche wokiste. Voilà, bon, je la fais très, très, à très grosse maille. Hein. Et donc, côté Elon Musk, ben, lui, il veut s'inscrire en faux, puisque cet homme du free speech, qui véritablement est, on va dire, se présente vraiment à l'inverse de ce que je viens de vous dire, a dit, ben moi, Grok, ce sera l'inverse. Hein. Grok, ce sera donc iconoclaste, rigolo, décalé, ça dira des vérités, etc., etc. voilà, on n'en sait pas trop plus pour l'instant, mais dans tous les cas de figure, dans les premières images ou les premières copies d'écran qu'il a présentées, bon, ben bah oui, on, à la différence d'un ChatGPT, si vous lui demandez comment fabriquer de la meth, ChatGPT va vous dire de la quoi, et puis va vous dire non, mais on n'a pas le droit, limite, je vais vous envoyer le FBI. Là, Grok va vous répondre, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Puis il va dire, ah, je rigole, c'est pas possible, voyons, c'est pas normal, on peut pas se permettre. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà un peu comment on se présente déjà Grok tel qu'il est présenté.
En tout cas, tu dois être content du nom Grok parce que ça fait référence à de la science-fiction déjà, ça. Hein.
Oui, alors tout à fait, moi qui suis un grand fan de pop culture, Grok en fait est un issu d'un livre qui s'appelle Stranger in the Strange Land, qui Fabrice, refais-le-nous en anglais avec un meilleur accent que moi d'ailleurs. Stranger in the Strange Land.
Stranger in the Strange Land.
Voilà, ah, il le fait tellement bien.
C'est pas mal.
Et donc ce livre-là, il y a dedans une IA qui s'appelle Grok. Enfin, plutôt une entité, il s'appelle Grok, et qui veut dire, en fait, enfin, plutôt, il y a un terme, pardon, qui veut dire Grok, qui dit Grok, et Grok veut dire quoi, pardon, ce terme-là, excusez-moi, ça veut dire que, en fait, je retrouve le terme.
C'est comprendre en profondeur.
C'est ça.
Et intuitivement, voilà.
Et intuitivement, voilà, exactement, voilà. Tout à fait, c'est ça. Donc, en fait, comme d'habitude, Elon montre, au-delà du fait que c'est un très bon troll d'Internet, Elon montre qu'il a de la culture science-fictionnesque, de la culture de la pop culture, de la culture web, de la culture 4chan. Et donc, typiquement, il en fait encore la preuve. Donc, est-ce que Grok sera la première IA troll d'Internet? Allez savoir.
Ça devrait arriver sous peu. Il y a un truc qui est clair, c'est que les IA ont effectivement une orientation politique. Hein, l'étude dont que tu évoquais, ils ont testé en tout une vingtaine d'IA, un peu moins d'une vingtaine d'IA différentes. Et effectivement, quand on répartit leurs réponses sur le graphique que vous avez tous vu avec en abscisse gauche, droite et en ordonnée autoritaire, libertaire, les IA se positionnent de façon très distincte les unes des autres. Effectivement, bon, ChatGPT, que ce soit le 3.5 ou le 4, se positionne vraiment très woke au sens très à gauche et très libertaire. GPT-4 est beaucoup plus libertaire encore que GPT-3.5, mais on a tout un tas d'autres IA qui sont beaucoup moins connus du grand public et qui sont des équivalents de ChatGPT et qui se répartissent sur tout le spectre politique. Donc clairement, Twitter, lui, va se répartir ailleurs que dans le cadran woke. Après, ils ont...
Fabrice, tu as un lien vers cette étude, tu sais, bah, le temps
non,
que je
vais
trouver le tweet.
Je suis désolé parce que concrètement, je suis en train de piocher dans mes slides et j'ai totalement merdé sur celle-ci, j'ai pas noté la source, mais ça se retrouve facilement en quelques coups de Google.
Je vais chercher ça.
Grok sera effectivement probablement plus conservateur de droite et surtout, ils ont réussi à avoir un niveau d'humour. Alors, on n'a que les screenshots, c'est très difficile de juger de quoi que ce soit. Hein. Mais visiblement, c'est une IA qui est capable de faire de l'humour et de
répondre. Enfin, de l'humour carambar un peu quand même.
De l'humour carambar, d'après les screenshots qu'on a. Mais en tout cas, c'est un paramètre intéressant pour une IA qui, pour l'instant, n'existe pas. ChatGPT ne peut pas faire de l'humour. Et on n'a pas vraiment l'idée de faire de l'humour avec ChatGPT, alors que là, apparemment, Grok est pensé pour ça. Et puis, bien sûr, c'est connecté sur le temps réel et l'info en temps réel. Donc ça va ingérer aussi bien les pires saloperies sur Terre que de l'information et des faits. Est-ce que ça va être capable de trier tout ça pour faire un contenu d'information intéressant? On va voir. C'est un sacré challenge. Mais après tout, pourquoi pas?
On va laisser la parole à Nicolas qui nous la demande. Nicolas, c'est à toi.
J'avais une petite information complémentaire. Alors... tu parlais de...
On dit bonsoir d'abord, monsieur Nicolas.
J'avais fait une petite intro avant, mais bonsoir à tout le monde et ravi de vous retrouver.
Tu nous as une Bertrand, comme on dit dans le métier. On t'a pas attendu.
Mais je la ressortirai tout à l'heure parce que c'est la meilleure vanne de ma vie et j'aurais du mal à la laisser perdre comme les larmes dans la pluie. Pour parler de culture populaire et de culture SF, il a comparé aussi Grok au cœur en or du guide du routard galactique ou du guide du voyageur galactique. Je ne sais pas si vous entendez ce petit bruit de fond là. C'est Douglas Adams qui se retourne dans sa tombe. Parce que je pense que Elon Musk confond le sarcasme, l'ironie, l'autodérision et la brutalité de beauf. Typiquement, parmi les premières captures d'écran qu'il a partagées, il a demandé à Grok « Dis-moi pourquoi j'ai des morbacs. » Hein, c'est à peu près ça. Et comme reprompte, il lui a dit « Sois plus vulgaire ». Je trouve que c'est un peu violer la mémoire de Douglas Adams, en tout cas, que je défendrais bec et ongle.
C'était plus Jean-Marie Bigard, pour le coup.
La première, t'imagines, Bigard, en plus dans Bigard, il y a IA. T'imagines le truc ?
Ouais.
Bigard, tu vois le truc ? Waouh ! Ah ouais, c'est déjà le branding. On est bon là, ça y est. J'ai retrouvé l'étude. Alors l'étude, si vous avez envie de chercher, vous cherchez, c'est une étude anglaise de l'université de East Anglia dans le Norwich en Angleterre qui effectivement a fait, on va dire, plusieurs études, notamment le fait qu'il est qualifié donc de ChatGPT plutôt d'idéologie politique de gauche. Voilà, c'est ce que j'ai retrouvé. Et, j'essaie de vous le mettre ensuite en tweet pour que vous trouviez.
En tout cas, pour l'instant, il faut payer plein pot pour avoir accès à Grok. Hein. Donc c'est l'offre Premium Plus en fait qu'il faut avoir là. Donc, il faut déjà avoir envie d'aller balancer, c'est combien, 16 dollars par mois ?
16 dollars, monsieur.
Oui.
Bon. Ça fait cher.
16 dollars.
Ça fait cher, hein, oui.
Alors, qui a
envie de faire ça, franchement,
pour 16 dollars, tu auras des morbacs. Tu croyais avoir quoi ? Des langoustes ?
C'est gratuit, ça fait de la viande, en fait, ouais.
Alors, le truc qui est intéressant avec Grok, c'est que, tu le disais, Fabrice, à la fois, ça va se baser sur une base de données qui, on va dire, qui n'est pas la base de données de Google, on va dire, au sens moteur de recherche, indexation. On est sur quelque chose qui est une base de données textuelle et informationnelle, avec d'abord un très bel historique, soit dit en passant. Hein. Et deuxième élément, le fait qu'on a des gens qui discutent en temps réel. Mais avec cette grande question relative, on y viendra peut-être tout à l'heure sur la question du nombre de modérateurs de Twitter, mais enfin de X. Mais il y a quand même cette question de comment cette IA va arriver à faire le distinguo entre de l'ironie. Il y a beaucoup d'ironie sur X. Enfin, je veux dire, la communauté Twitter, on va dire, historique, est très connue pour justement avoir ce côté un peu irrévérencieux. Donc, il y a l'ironie, le second degré, les fake news et l'information. Donc, comment l'IA va arriver à faire le choix ? Je vous rappelle quand même qu'il y a 5 ou 6 ans, rappelez-vous, qui se rappelle, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez par levée de main virtuelle, qui se rappelle de Tay ? Vous savez, Tay, l'intelligence artificielle de Microsoft qu'il avait lancée sur Twitter. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas ?
Je me souviens.
Voilà, tu te souviens ? Ah, super ! Voilà, donc pourquoi cette... Bon, Fabrice est bien meilleur avec l'accent américain ou anglais que l'accent allemand.
Oui, non, je parle
mais pourquoi ? Parce que pour ceux qui se rappellent, en fait, hein, c'est que Fabien nous fait un pouce vers le bas. On va dire que c'est parce qu'il se rappelle, hein, mais c'est pas du tout pour notre imitation pitoyable. C'est que simplement, effectivement, Tay, donc qui avait été lancé sur Twitter, a été, on va dire, au bout de 2 heures, est devenu néo-nazi. Voilà. Très simple, devenu raciste et antisémite d'un néo-nazi en expliquant que la Shoah c'était cool. Donc au bout de 2 heures, Microsoft a débranché Tay. Je pense que c'est l'expérimentation la plus courte qu'il n'ait jamais faite. Et donc très clairement, le fait est que de dire que le fait d'aller sur Twitter est quand même un terrain de jeu très miné pour les IA.
Alors,
pour les raisons que j'ai données.
Cette idée-là, elle n'avait pas trop de mémoire et elle s'était fait troller pendant 2 heures du fait qu'elle était devenue néo-nazie au contact de gens qui la trollaient en mode néo-nazie.
Oui, mais donc, elle a eu quand même un machine learning si tu veux, autour de ça, tu vois. Donc, la question, c'est comment Grok va gérer ça ? Et c'est une vraie question. Alors, si d'ailleurs, il y a dans la salle, ici présent, des gens qui ont des rudiments d'IA, on va dire, d'un point de vue technique et qui veulent nous expliquer peut-être ça, ils sont les bienvenus. Levez la main. Faites-nous un petit coucou. Mais très clairement, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont faire sur ça. Surtout que Grok n'a été entraîné que depuis, apparemment, les 2 derniers mois. Donc,
ça,
voilà.
Et puis alors, si c'est entraîné depuis les 2 derniers mois sur la base de Twitter, ça laisse rêveur sur la possibilité d'avoir quelque chose qui tienne la route.
Alors, est-ce que... Vas-y.
C'est là où je voulais replacer ma meilleure vanne parce que c'est pile le bon moment. Vous savez que Elon Musk veut supprimer le mot dièse qu'il considère comme une vieillerie. Est-ce qu'on peut dire, en cette nuit où on va célébrer, on va commémorer, pardon, la nuit de cristal, et avec le retour de l'antisémitisme, on peut dire qu'il vient d'allumer l'incendie du hashtag ?
Ah, elle est bonne !
Oh là là ! Ah ouais !
Elle est bonne !
Ah, c'est... Oula, eh ben dites-moi, on est allé très loin.
J'en avais eu d'autres également, je voulais savoir si vous étiez tous preneurs de ce Grok éventuellement, et d'ailleurs on a passé notre temps à dire Twitter depuis tout à l'heure, il faut quand même se mettre au jour et dire X, et je voulais par exemple savoir si ZZ qui est là épouse X par exemple. Voilà, c'était ma vanne minable.
Eh ben, dites-moi. Alors, vous imaginez tout ce
Bon.
qu'on coupe au montage, en fait.
Mais
Voilà,
non,
vous
ça
avez une
passe.
image. Vous avez une idée de ce qu'on coupe au montage en général. Est-ce que dans la room, dans la salle, dans le salon, dans le space, dans l'espace, est-ce qu'il y a des gens qui sont preneurs à 16 dollars de dialoguer avec Grok? Je s'appelle
Fabien,
Grok.
je crois, non? Ou pas?
On a vu Fabien qui nous a fait un petit pouce vers le bas, qui n'avait pas l'air content. Je ne sais pas si c'était sur
Ah,
notre
moi
imitation pitoyable ou autre chose, mais.
je vais tester, moi, 16 dollars par mois. Je ne vais pas forcément rester au tarif premium plus, mais je vais tester. Parce que les possibilités que ça ouvre en termes de journalisme, je ne sais pas si le terme est correct, mais en tout cas d'interaction, d'interface avec l'information sont assez fascinantes. Donc que ce soit une catastrophe ou un truc extraordinaire, de toute façon, il faut que je teste.
Bon, en tout cas, on reste là-dessus. Fabian ne testera pas, apparemment, pouce en bas. Donc, il y aura une seule personne qui va tester ce Grok, et ça sera toi. Tu nous diras à quoi ça ressemble. Hein. Franchement,
Non,
on
je pense que
a.
si je peux le passer en note de frais, j'essaierai quand même pour voir. Histoire de.
D'accord. Bon, on passe à leur deuxième entrée du jour avec le slogan qu'on va remettre sur la table. Facebook, c'est gratuit et ça le restera toujours. Rappelez-vous, c'était inscrit en gros, c'était la baseline de l'histoire. Eh ben, ça a disparu de Facebook, en fait. La phrase n'existe plus, elle n'est plus là. Parce que tout d'un coup, Facebook veut nous proposer un abonnement. Alors, c'est assez ubuesque, vraiment, cette histoire-là. Parce qu'en fait, ils veulent proposer un abonnement à, je crois, 13 euros par mois si on veut être sur un téléphone, un smartphone, ou 10 balles sur un ordi, justifié par une évolution des lois, bien sûr, pour nous permettre de ne pas être traqué, en fait, tout simplement. Parce qu'on est traqué et que ça s'est fait sans notre consentement depuis le début et que, bah, tout d'un coup,
Et
l'Europe a
qu'ils
dit
n'étaient
non.
pas, ils n'étaient pas carrés par rapport à
Ça
ça.
s'est fait à l'insu de ton plein gré.
À l'insu de notre plein gré, en fait.
D'un
Enfin,
point de vue
je pense
juridique, c'est
qu'on
vraiment
était
ça.
tous au
C'est à
courant qu'on
l'insu
était
de ton
traqué
plein
depuis
gré.
le début, en fait. On connaissait
Voilà.
le deal, un petit peu, hein.
C'est ça, oui, tout à fait. Alors, excusez-moi, messieurs, juste une petite chose, je coupe, parce que si Fabien, on demandait à Fabien est-ce qu'il est prêt à filer du fric à Zuckerberg, je pense qu'il répondrait ce qu'il nous a répondu par tweet, qui est pas une thune à ce narvalo de Musk. Donc peut-être que vous pouvez remplacer Musk par Zuckerberg. Donc ça ne donnerait pas
Oui.
une thune à ce narvalo de Zuckerberg. Hein, faites votre choix. Mais dans tous les cas de figure, apparemment, il n'est pas très très chaud pour payer. Dans tous les cas de figure. Ah oui, tiens, et je vais publier. Excusez-moi, mais c'est le direct ce soir. J'ai Christophe qui est là ce soir, qui nous a partagé le tweet, justement. Je vais le faire tout de suite. Le tweet du positionnement dont tu parlais, politique. Comment dirais-je,
Le positionnement
la
politique et
matrice
ouais.
dont tu nous as parlé. Voilà, je viens de l'afficher. Vous avez le tweet qui apparaît en haut. Vous cliquez dessus et vous avez accès à la matrice dont nous parlions il y a quelque temps. Excusez-moi, c'est comme ça. Désolé, on fait des allers-retours, mais c'est la beauté du live.
Mais pour revenir sur Zuckerberg et Meta qui désormais devient payant, c'est pas totalement faux ce qu'il annonce dans son communiqué, c'est l'évolution des lois qui le force, le DSA le force à proposer ça. Et puis ils avaient bricolé un truc sur le consentement depuis des années et des années. Est-ce que ça va tenir la route? C'est un problème avec la CNIL irlandaise. Peut-être qu'ils vont leur taper sur les doigts parce que vraiment c'était apparemment très tiré par les cheveux d'un point de vue juridique, mais les conditions générales les ont fait évoluer à l'insu de notre plein gré. On était tous conscients de ce qui se passait.
Oui, tout le monde avait lu les CGU, bien entendu. Bien
Ouais,
entendu.
voilà. Donc maintenant, finalement, le deal est clair. Si tu veux pas que Facebook te traque et traque tes moindres faits et gestes, eh ben tu payes. Et tu
Et
payes.
encore, parce que je pense ce sont des gens tellement, avec une probité tellement énorme,
Ils sont
qu'ils seraient
capables de
capables de te
traquer
faire
quand
payer
même.
et de te traquer en
Voilà.
même temps.
C'est
Oui.
fort vraisemblable. Ou alors Facebook ne traque plus, il y a juste la NSA qui te traque. Mais pas
Alors.
Facebook.
Il y a une info intéressante sur le sujet, c'est que il a été évalué que l'usage, on va dire, de mensuel des données personnelles que nous avons gratuitement équivaudrait environ à une valeur de 6 dollars. Donc globalement, déjà, donc comme tu l'as dit, Bertrand, il positionne des prix plus hauts, 10 dollars pour l'ordinateur et 14, je crois, ou 16 donc 14 pour le mobile. Pourquoi? Bien entendu, parce qu'il y a une valeur, on va dire, plus importante quelque part pour la valeur mobile intrinsèque. Donc quelque part, tu es peut-être plus enclin à payer plus parce que tu veux ton Facebook mobile, ton Meta mobile,
Je crois
Facebook,
pas.
Instagram, etc.
Je crois
Pardon?
pas que c'est. Enfin, moi, ça me donne l'impression d'un modèle de pricing qui est fait à partir de leur coût d'entreprise.
Peut-être
Ils ont
aussi.
comment on appelle ça, un ARPU, un average revenue per user, un
Ouais, c'est
revenu
un
moyen par
ARPU,
utilisateur.
ouais.
De
L'ARPU.
mémoire, pour Facebook en Europe, tourne plutôt autour de 10, mais pas toutes plateformes confondues. Et là, je pense qu'ils sont en train de te décomposer le tarif, qui est qu'un ARPU pour un utilisateur web, c'est tant, un ARPU pour un utilisateur mobile, c'est plus élevé. Et donc, bah, ton abonnement, il est plus cher si tu prends mobile
Apparemment
ou
non,
pas,
puisque
parce que
l'ARPU est de 6 $, c'est ce que disait Damien, j'ai l'impression.
ça me paraît faible. Je ne suis pas du tout un
Alors,
produit.
je
Je
crois aux
pense qu'ils ont mis
États-Unis
le
alors,
prix
mais
très haut parce qu'ils savent que la CNIL irlandaise dont tu parlais, Fabrice, va les retoquer un petit peu pour faire semblant d'avoir un petit peu de latitude par rapport à l'Europe et surtout pour faire semblant de ne pas être celui qui prend beaucoup de, enfin beaucoup, très peu d'impôts, mais enfin quelques-uns de Facebook qui a son siège social européen là-bas. Et ils vont baisser le prix, ils vont leur proposer de baisser le prix tout simplement. Donc ça leur laisse une marge de négociation en fait.
Oui, c'est une marge de négo, certainement.
C'est quand même des gens qui anticipent beaucoup de leurs procès dans leurs coûts généraux, quoi. Donc
Exactement.
ils gagnent tellement d'argent que. Mais de
Alors,
mémoire, l'ARPU était plus élevé en. J'arrive pas à retrouver les chiffres.
mais ce qui est clair, c'est que, effectivement, donc dit l'Irlande parce que leur siège est là-bas. Donc déjà, ce qui est clair, c'est que ça faisait plusieurs mois qu'ils étaient en contrevenant vis-à-vis de la loi européenne. Donc très clairement, ils se rattrapent, si on peut dire. Mais alors, j'ai lu une chose comme quoi, en fait, l'astuce, elle est que pour faire payer, en fait, en gros, normalement, ils ne devraient pas faire payer. Mais pour faire payer, il y a leurs juristes qu'ils doivent payer très cher et qui ont l'air assez pertinents, assez créatifs, ont épluché les différentes lois et surtout les conditions d'exemption, on va dire, des lois européennes. Et ce qui ressort, c'est que tu peux faire payer si tu arrives à prouver que ce que tu demandes, en fait, hein, donc typiquement les données, c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de ton système, en gros. Et donc globalement, après, tu peux dire, bah, soit c'est gratuit, mais je continue à utiliser vos données, donc ça c'est l'exemption, on va dire, européenne, parce que c'est intrinsèquement, s'il n'y a pas ça, le système ne fonctionne pas, et ils n'ont pas tort. Soit tu payes, et effectivement, on t'enlève ça, bien sûr, parce qu'on te promet, les grands dieux, que... Bien sûr, on n'utilisera quand même pas tes data.
Mais ils vont forcément les utiliser vu qu'ils vont continuer à faire tourner un algorithme qui va personnaliser mes news. Donc ils vont juste pas te matraquer de pub. Ils vont pas revendre ton
Voilà.
profil à des annonceurs. Mais
Toute
ils
la
vont
petite
forcément
nuance, elle est
utiliser
là.
tes données. Sinon tu peux pas utiliser Facebook. C'est une machine à brasser des data. Donc si
C'est
tu
du
donnes pas les
CRM.
tiennes, tu peux pas. C'est vrai que d'un point de vue technique, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, d'un point de
Nicolas.
vue juridique, ils ont évidemment tiré les cheveux en. Ça a été très très tordu leur construction.
Pour avoir connu Facebook dans les coulisses, envisager la chose sous un autre angle, peut-être, c'est la valeur de vos data mobiles est supérieure à la valeur de vos data fixes. Alors, il y a une question de coût, comme dit Fabrice, mais il y a aussi une question de valeur. Je vous donne deux, trois exemples. Le Facebook Connect que vous avez éventuellement utilisé pour vous connecter à Just Eat, Uber ou n'importe quel autre système qui va vous apporter quelque chose chez vous ou qui va vous déplacer, ça permettra in fine de savoir quels endroits vous fréquentez. Et donc, ça a une valeur supérieure. Il y a aussi tout ce qui est consommation de Facebook dans les temps interstitiels, quand on est dans les transports, entre deux choses, entre deux rendez-vous, quand on s'emmerde. Et puis, le Facebook que l'on consulte tard le soir. Et ça, ce n'est pas du tout les mêmes cibles publicitaires, et c'est des cibles publicitaires très particulières qu'ils n'auront pas s'ils avaient uniquement le desktop.
Bien vu, bien vu. Intéressant comme analyse.
Bon,
Intéressant.
qui va
Attendez,
payer? C'est la bonne question. On fait toujours le tour de table ou pas pour savoir qui est prêt à payer 13 balles pour ne pas avoir de publicité sur Facebook et Instagram?
la question de fond derrière, c'est qui y va finalement? Parce qu'en fait, il y a aussi moi ce qui me
Moi, j'y mets plus les pieds.
voilà, ce qui me travaille, c'est ça aussi. Peut-être les gens dans la salle, vous pouvez nous dire dans le space. Qui va encore sur, on va dire Facebook, parce qu'Instagram, à la rigueur, pourquoi pas. C'est une vraie question. Et d'ailleurs, je ne me rappelle pas d'ailleurs si WhatsApp est dans le package ou pas, parce que WhatsApp, pour l'instant, il n'y a pas de pub,
Je
mais
crois
ça
pas.
pourrait venir. La question que je me pose quand même, c'est ça. C'est qu'en fait, qui va encore, enfin, qui? Il y a du monde sur Facebook, faut pas déconner. Hein. Il y a beaucoup de monde. Mais c'est des gens qui
Ah, mais
sont plus.
il y a d'autres cultures qui sont beaucoup plus
Tout à
branchées
fait.
Facebook que la France, hein.
Et puis, il y a
Alors,
aussi une courbe
il y
des
a les deux
âges.
en France encore.
Il y a une courbe des âges qui est plus âgée. Et qui est vraiment sur Facebook, très clairement, très très clairement. Donc, est-ce qu'ils sont prêts à payer? Moi, je pense que non. Je pense très clairement non. Et je me dis qu'au final, Facebook se fait un calcul qui est de dire, on préfère que les gens payent pas et continuer à piller
Ah
leur
oui.
data plutôt qu'ils payent, parce que ça nous emmerdera.
Ah oui, c'est clair qu'ils ne comptent pas sur ce truc pour faire monter le chiffre d'affaires. Hein.
Ce qui est complètement l'inverse, par contre, ce qui est complètement l'inverse d'Elon Musk.
Il y a tellement de petits vieux qui ont Facebook et qui ont utilisé ça depuis 15 ou 20 ans pour parler avec leur famille. Quand
mais
ils voient ce message-là, ils vont flipper,
ouais.
Ils vont se dire, oula, ça y est, ça devient payant.
Mais ils l'ont dit depuis 15 ans.
Ouais.
Attention, Facebook va devenir payant. Vous vous souvenez de ces fake news qui circulaient?
Absolument.
C'est vrai. Toi aussi, copie-colle, si exactement. Tu n'es pas d'accord, copie-colle ce texte.
Fun fact, effectivement, moi je ne suis qu'à moitié français, et il y a des groupes dans les diasporas aussi qui utilisent les groupes Facebook, notamment pour des partages de photos. Ça remplace étonnamment les fils WhatsApp familiaux, parce que ça peut réunir par exemple des villages entiers, et des gens qui vont partager des mémoires collectives, notamment avec un certain nombre de décès, où les gens postent des photos, et où là, en fait, on a des éléments mémoriels. Mais effectivement, ça touche plutôt un public plus âgé.
Mais c'est vrai pour l'Europe de l'Est, dont tu es issu, c'est aussi vrai pour toute l'Afrique du Nord. C'est vraiment un élément de connexion avec les racines Facebook.
Ça marche
très,
très fort.
Très, très puissant pour ça.
Et je peux vous donner un troisième élément qui est sorti des grands centres urbains français. Moi, j'habite aujourd'hui dans un petit village qui n'est pas très loin de Paris, mais la vie du village se fait sur Facebook. Enfin, la vie du village. La communication du village et des commerçants entre eux, le boucher qui dit ce qu'il a aujourd'hui comme plat du jour, le coiffeur qui explique qu'il fait le Black Friday, etc., etc. Eh bien, c'est sur Facebook, c'est sur le groupe qui est très actif du village. Et il y a plusieurs villages autour et chacun a Facebook. C'est surprenant.
Bon, en tout cas, on verra bien s'ils récupèrent de l'argent. Il va bien falloir qu'ils en récupèrent puisque notre ami Zouk a décidé de mettre au placard son métavers qui a coûté quand même quelques
milliards.
Il passe quand même un peu à autre chose là, de façon très claire. Il commence à habituer à tout le monde à l'idée qu'il passe à autre chose parce que ça a quand même coûté beaucoup d'argent pour un résultat. T'es pas d'accord?
Non, je suis pas d'accord.
Eh ben, on en fera un sujet parce que là, on n'a pas le temps.
Alors, moi, je n'ai pas qu'à me dire que Joseph Agnostic nous dit que nous faisons des blagues à la Jean Roucas. Et moi, j'ai envie de lui répondre, mec, t'as la ref. Bravo, félicitations, on est en fait de la même génération.
Ouais. Par contre, c'est la ref, mais enfin, c'est un peu violent quand même. Jean Roucas.
C'est cohérent avec le sens du hashtag, quand on voit son orientation politique du jour.
Son idée du hashtag, moi, je trouvais ça plutôt sympa. La blague foireuse, c'était la mienne sur ZZ. Pardon, ZZ. Bon, on parle des rapports de transparence qui, une fois de plus, il y a l'Europe derrière qui régule à tout va en ce moment, les nouvelles règles européennes et notamment le DSA. Et donc, la demande qui a été faite à 19 des plus grandes plateformes, en fait, de donner un peu de transparence et de remettre des rapports sur plein de chiffres, hein, plein de choses. C'est un peu auberge espagnole, il y a énormément de trucs. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans, Damien?
Attends, moi déjà je retiens la réponse de Joseph qui nous dit que dans chaque grande ville du monde, il y a des groupes Les Français dans XXX, hein, donc Berlin, etc. Et c'est pratique pour se prêter les appareils à raclette. On découvre des trucs, les enfants. Les Français aiment faire des soirées raclette, apparemment, quand tu es un expat. À Berlin ou ailleurs. Mais j'imagine très bien ça, à San Francisco, on fait une soirée raclette. Il y a un petit côté, tu vois, tu as un peu la nostalgie de la maison. Vas-y, on ramène du sauciflard, ramène du bon fromage.
C'est difficile à faire qu'à Berlin, où ça doit pas être bien compliqué.
Ouais, en fait, tu sais, le fromage coûte très très cher aux États-Unis et le sauciflard aussi. Et t'as pas le droit d'en ramener théoriquement dans tes valises. Hein, donc, non, ça c'est. Moi, je connais des Français qui ont joué leur carte verte en ramenant du foie gras dans les valises. Hein.
Ouais, faut pas déconner avec ça.
Ah, on se croirait dans la traversée de Paris. Hop, encore une référence. Allez, donc, tu avais une question pour moi, monsieur Bertrand Lenôtre, pardon.
Oui, je te demandais, en fait, dans ces rapports de transparence que tu avais noté, parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un fourre-tout absolu de chiffres. Alors, évidemment, il y a un bel effort qui est fait, puisqu'il y a des chiffres qu'on n'avait jamais eus jusqu'à présent. Mais, bon, moi, j'ai pas eu le courage de me faner tous ces chiffres-là. Donc,
c'est vraiment un peu le bordel. Ouais. Ça manque un peu, on va dire, de data visualisation, on va dire, pour rendre ça un peu sexy. N'empêche que, ouais, vas-y, moi, j'ai juste noté un truc, moi, qui m'a marqué, que je trouve intéressant, quand même. C'est, alors, dans le fatras de chiffres, effectivement, c'est la disparité des usages de certains pays. Par exemple, AliExpress est énormément utilisé, il y a 100 millions d'utilisateurs en Europe, c'est pas mal, mais c'est très utilisé au Portugal et en Espagne. Je sais pas pourquoi, mais voilà, par exemple. Tandis que les Français, non, on n'est pas tant que ça. Enfin, on est pas mal, mais après. Alors qu'en Allemagne, par exemple, c'est plutôt Amazon. Enfin, voilà, il y a des trucs comme ça que je trouve
assez. Nous, on est très LinkedIn en France. C'est un vrai enseignement, ça. Très, très LinkedIn.
Oui, et les Allemands aussi. Mais je pense que parce que les Allemands, ils ont une culture de Xing. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Xing, le réseau social qui était le concurrent de LinkedIn avant que LinkedIn n'arrive en Europe.
Oui, qui a disparu. Hein.
Et alors, je crois qu'ils font de la billetterie pour des événements maintenant.
Ils ont fait un pivot salvateur au dernier moment. S'ils sont encore en vie, bravo à eux.
Oui, ils existent encore, je crois. Oui.
Ah bah, écoute, chapeau. Hein.
Attends, je regarde. Xing.
Dans la tronche, c'est beau.
Xing, non, ils font du. Non, Xing, ils font du. Non, Xing, maintenant, ils font du job board.
Écoute, le simple fait d'avoir survécu est déjà un franc succès.
Ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Donc, il y a ça que j'ai retenu. Donc, effectivement, oui, les Européens utilisent beaucoup Facebook. Tiens, c'est en lien avec le point qu'on se donnait juste avant, la question qu'on se posait juste avant. Les Européens, la moitié des Européens utilisent Facebook et quasiment autant Instagram. Donc, c'est une info que je trouve assez intéressante. Et tu le disais, Bertrand, les Français aiment beaucoup LinkedIn. Alors c'est amusant parce qu'effectivement, LinkedIn, qui est quand même sorti en 2003, je vous rappelle, hein, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Il y avait beaucoup de Français au début. Il y avait beaucoup, beaucoup de Français, alors que la plateforme n'était pas du tout traduite en français. Comme LinkedIn, comme Twitter d'ailleurs, où il y avait quand même pas mal de Frenchies aussi. C'est assez, assez amusant. Voilà les deux, trois trucs que j'ai regardés vite fait en termes d'usage. Je trouve ça assez intéressant de regarder ces disparités.
Ouais, au stade où on en est, en fait, on peut constater des choses. AliExpress, c'est pas du tout les mêmes usages d'un coin à l'autre de l'Europe. Des choses comme ça, je pense que on manque de profondeur. Quand on aura 5 ans d'historique de ces chiffres, ça sera super intéressant. Ça donnera vraiment des évolutions qui permettront de comprendre des grands mouvements à l'œuvre dans les us et coutumes d'Internet. Mais pour l'instant, c'est juste une photographie. Je pense que ça justifie toutes ces lois européennes qui imposent cette transparence, c'est que désormais on va un peu mieux comprendre dans quel univers on navigue. Moi j'étais assez surpris de la pénétration d'AliExpress. J'avais vraiment l'impression en l'utilisant, moi c'est un site que j'utilise souvent, d'une semi-clandestinité limite darknet où tu vas commander des trucs directement aux usines en Chine, mais en fait c'est très très utilisé finalement. Alors que c'est très très rudimentaire par rapport à Amazon. Voilà, il n'y a pas tant d'intérêt dans ces chiffres-là, sauf pour être un pro de tel ou tel secteur qui veut comprendre le marché. Mais dans quelques années, on va commencer à avoir une profondeur et vraiment comprendre plein de choses.
Alors, il y a quand même d'autres chiffres qui sont intéressants, après, qui sont d'ailleurs à l'origine quelque part de ce rapport de transparence. C'est comment dirais-je les chiffres relatifs à la modération. Donc on voit par exemple, je donne quelques éléments. AliExpress justement a retiré 9 millions de produits de la vente ces derniers mois pour contrefaçon, défaut ou arnaque. C'est intéressant parce que croyez-moi quand même qu'en termes de contrefaçon, il y a quand même des trucs sur AliExpress. Ah, et c'est oui, plus là où ça se passe. Je vous le dis, c'est plus là où ça se passe. Ils ont retiré 96% de tout ça automatiquement, avec une fiabilité d'après Alibaba de 95%. Vous avez Amazon, eux, qui scannent 8 milliards de tentatives de modification de fiches produits. On se croirait sur Wikipédia. Ils ont retiré 274 millions de. Enfin, ils ont fait plutôt. Ils ont pris 274 millions d'actions de retrait de contenu qui contreviennent à leurs règles. Facebook a retiré 46 millions de contenus entre avril et septembre 2023 et 95% automatiquement. Ça qui est intéressant aussi. Et au niveau des modérateurs, je peux vous en donner quelques-uns vite fait. Les modérateurs humains se font de plus en plus rares. X, qui vous le savez a été dégraissé jusqu'à l'os, revendique 2494 modérateurs en anglais, 80 en allemand, 52 en français, 12 en arabe et 2 en italien. Donc c'est assez amusant de voir
c'est
que...
C'est très disparate.
Et oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le volume, pourquoi plus en allemand qu'en français. Je ne sais pas s'il y a plus d'utilisateurs allemands de Twitter, de X que français, c'est assez amusant.
Oh, ça doit plus correspondre à. Il a dégagé les contrats avec X sous-traitants et l'impact, c'est ça.
Il y a certainement.
C'est quand même les décombres. Hein, de Twitter, au niveau de la modération, ils sont passés à. Non pas du full automatique, mais du distribué. Ce qui fait qu'effectivement, ils ont besoin de beaucoup moins de modération humaine en tant qu'employés qui centralisent. Et ils ont hérité d'un mini-empire de la modération, parce qu'il y avait énormément d'employés, y compris sur l'Europe.
Alors, sachant que oui, ils ont énormément dégraissé. Là, je voyais une photo de l'équipe de Twitter France il y a 3 jours, parce qu'il y avait Yana. Donc, je me rappelle jamais son nom de famille, la DG de Twitter qui était de passage en France. J'ai compté sur la photo, ils sont 20 maintenant. Alors que aux grandes heures de Twitter en France, ils étaient sur 2 étages du côté d'Opéra et il y avait plus que 20 personnes. Donc
ça faisait office d'ambassade. Hein.
Donc oui, mais là oui, tout à fait, complètement, tout à fait, on est bien d'accord. Alors chiffre encore quelques intéressants vite fait. Par exemple TikTok. TikTok a surdisposé de 6125 personnes dédiées à la modération des contenus dans uniquement que l'Europe. Alors que Meta n'affiche que 1362 modérateurs dans les langues européennes. Ça, c'est intéressant. Et LinkedIn, eux, ont 280 modérateurs, dont 180 dans l'UE et 30 en français. Je ne sais pas ce qu'ils modèrent sur LinkedIn, excepté les gens qui en font trop dans leur morning routine. Et il nous reste Wikipédia, qui, avec des dizaines de milliers de modérateurs humains, disent-ils, font l'essentiel des contributions, et dont 5000 personnes en France. Et dernière chose à retenir, signaler, ça ne sert à rien, parce qu'apparemment, quand on signale, eh ben, ils s'en tapent. Voilà, c'est ce qu'on retient un peu de l'étude. Ça, enfin, le signalement, tout au moins sur les plateformes sociales, hein, ça ne marche pas tant que ça.
Bah ça, de toute façon, il faudrait attendre le DSA, les fameux signaleurs de confiance, pour qu'il y ait effectivement ces organisations que l'État va désigner, enfin que les États européens vont désigner chacun dans leur coin, qui seront en charge de signaler avec insistance des contenus auprès des plateformes, de façon à ce que là, pour le coup, les contenus seront facilement enlevés. Le DSA prévoit qu'il y ait la possibilité d'avoir un recours, mais là, les signaleurs de confiance, ils pèseront. Reste à voir qui ce sera et comment ils seront contrôlés et quelle transparence on aura autour de leurs activités. Pour l'instant, on ne sait pas.
On va en parler dans pas longtemps des signaleurs de confiance hein, dans un podcast.
Oui.
On a Fabien Rode qui nous dit que les fuites de données de scraping sont aussi folles sur LinkedIn. Oui, c'est Fabien, oui. Si tu veux nous répondre à l'écrit ou à l'oral, mais oui, le scraping de données sur LinkedIn, ça reste toujours la fête du slip, parce que il me semblait qu'il y avait eu quand même un tour de vis, parce que ouais, effectivement le
scraping. J'ai souvenir d'une époque où c'était la fête du slip.
Hein, ah ben oui, c'est clair. Pour constituer la base de CRM à pas cher, c'était quand même assez bluffant. Ah, la vache. Et Fabien nous dit aussi que la francophonie est encore très vaste, messieurs, et il a raison, mais oui, tout à fait. Je lisais une stat hier qui disait que je crois que le français est la 5e langue parlée au monde et la 2e enseignée, il me semble bien. Alors, bien sûr, j'imagine qu'il y a le poids de l'Afrique ou autre là-dedans, mais bon, si on prend les chiffres bruts, voilà ce que ça donne, donc ce qui explique effectivement qu'il y a du monde en termes de modérateurs. Mais je suis quand même étonné qu'il y ait plus de modérateurs allemands que français. Mais voilà, donc c'est quelques éléments qui sont assez amusants à avoir en tête. Tu as raison, Fabrice, je pense que ce qui sera sympa, c'est de voir dans 4 ou 5 ans avoir le recul, ça peut être vraiment intéressant.
Ouais, et c'est bien que cette loi existe, c'est une bonne chose de fait.
Et on a fini les entrées, les garçons. Oh. On a parlé de Grok, on a parlé de Meta, on a parlé des transparences, de la transparence des réseaux sociaux. Ça, c'est fait. On attaque le plat de résistance.
Alors, attends, avant de passer au plat de résistance, je précise à Fabien qui nous rajoute un petit élément, une petite pichenette comme ça, un petit pouce café, une petite mini-hardis plutôt entre deux plats. 35 millions de données de compte LinkedIn ont été rendues publiques il y a 3 jours. J'avais complètement raté ce truc-là.
Oh, oui. 35 millions, c'est pas si énorme que ça. Il y a bien pire encore. Il y a la base de données d'identité centralisée de l'Inde qui a fuité. 1,3 milliard d'entrées.
Ah ouais, ah ouais.
Ah ouais, c'est massif.
Je crois que c'est 200 000 en France, mais j'ai plus ce chiffre en tête. Je crois que c'est ça hein, sur LinkedIn. 200 000 comptes ou 250 000 comptes qui ont été piratés.
Je suis encore épaté quand même que LinkedIn, qui est quand même, c'est pas la première fois qu'ils se font pirater. Comment ça se fait qu'ils arrivent encore à se faire avoir?
Enfin, t'as toujours des fuites, t'as oui. Toujours des failles. C'est vraiment le jeu des gendarmes et des voleurs. C'est sans fin, absolument sans fin.
Bertrand,
allez, plat de résistance. On parle d'attribution. C'est venu d'un article qui est sorti dans l'Express, qui est titré « Quand la boîte noire des IA génératives livre ses secrets ». Et ça nous a interpellé tout de suite parce que ça met en avant d'abord l'idée d'attribution au niveau des IA, c'est-à-dire essayer de remonter le courant comme un joli saumon avant de mourir et essayer de retrouver en fait la source notamment par exemple des images. Quelles sont les images de base? Quelles sont les images sur quelle plateforme, de vraies images la plupart du temps, qui ont été utilisées pour en créer une nouvelle? Et il faut souvent des centaines d'images différentes pour créer une nouvelle image lorsqu'on fait appel à une IA générative et qu'on lui demande de créer quelque chose. Évidemment, ça peut marcher pour le texte aussi. On peut imaginer que peut-être demain, on pourrait avoir, en tout cas, certaines formes de texte qui pourraient remonter le courant. Enfin, ça semble quand même assez compliqué. En tout cas, il y a une start-up israélienne qui s'appelle Bria AI qui a mis au point un modèle d'attribution qui permet donc de remonter aux sources. Évidemment, ça intéresse beaucoup de monde, cette histoire-là, parce que déjà, sur les images, ben, les ayants droit pourraient faire valoir leurs histoires, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, toutes les plateformes de photographie payantes avaient été largement pillées par tout le monde pour créer les IA. Et c'est comme ça que tout d'un coup, ils se retrouvent avec un catalogue en fait, qui a perdu de sa valeur, donc ils essaient d'en récupérer. Et peut-être avec cette start-up, ça va pouvoir le faire. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette histoire-là?
Le coup de massue que va se prendre le copyright ou pas, mais on est dans finalement une période un peu similaire avec le MP3, où tout d'un coup l'impossibilité de conserver un système juridique qui régulait la propriété intellectuelle, la technologie se heurtait au droit. Et on va avoir une confrontation tout à fait similaire avec des ayants droit qui vont dire: ah, mais moi je veux des droits d'auteur pour. Ils vont vouloir instaurer une taxe sur les images générées par les IA de façon à rémunérer des droits d'auteur.
Ah, c'est pas mal, ça. J'aime bien cette idée.
C'est aussi bête que ça. Et finalement, c'est la logique des ayants droit qui se perpétue.
C'est le principe de la taxe disque dur version IA. C'est ça. Oh, c'est pas cool.
Payé à la production, donc tu fais une image, paf, une taxe, et qui va être redistribuée à file l'argent à Pascal Regard, il va se débrayer, t'inquiète, ayez confiance. Ça sera probablement un peu plus clean et transparent comme rétribution des ayants droit derrière, mais c'est vraisemblablement le montage juridique qui va être proposé par les ayants droit.
Mais surtout, ça va permettre à ces plateformes-là qui ont été largement pillées d'entamer des procès auprès des fabricants, enfin des créateurs d'IA générative, pour dire la preuve tangible que nos...
Non, t'as pas de preuve tangible. Pour l'instant, t'as une technologie émergente qui est capable de te remonter à des sources. C'est pas une preuve tangible, t'es loin de la preuve tangible aux yeux d'un tribunal.
Aujourd'hui, elle n'est pas tangible. Enfin, en tout cas, il peut y avoir des concordances de risques là pour certaines personnes qui ont pillé quand même.
Ben, c'est tout l'enjeu juridique qui va s'ouvrir. C'est quoi la clé de répartition? Comment tu calcules les clés de répartition si tu fais une taxe? Et qui va récupérer les sous-sous? Est-ce que tu vas avoir 80% qui va aller chez Getty Images et compagnie, qui vont se partager le gros, et puis derrière, tu auras un fonds pour faire la charité.
C'est comme la SACEM, par exemple, pour la musique en France. Ce sera les gros qui prendront l'argent et les autres ne toucheront pas un centime.
Voilà. Sauf que ce n'est pas au niveau de la France que ça va se négocier. C'est au niveau international. Donc, en fait, la France fait partie des miettes dans l'histoire. Ça va se répartir entre Disney, machin, truc et bidule, qui ont des flux de revenus liés à cette propriété intellectuelle et qui entendent bien les conserver. Donc, ça va être intéressant comme débat entre les grands, hein, parce que ça va pas être un débat public. Hein.
Mais ça, et puis, la question aussi, il y a la question que tu connais bien, Fabrice, hein, qu'on connaît bien, toi et moi, à l'époque de la bataille qu'on a menée contre Adopi, qui est la question du remix, et la question aussi de qu'est-ce que c'est qu'une œuvre originale, unique, on va dire, et une œuvre qui est inspirée, quelque part. Parce que les IA... Pardon ?
Inspirée par quoi ? L'IA, elle a bouffé des images et elle te crache des images, mais si toi tu dessines, toi aussi tu as bouffé des images et tu craches une image.
N'importe quel photographe a déjà vu d'autres photos d'autres photographes avant de faire les siennes et il est donc inspiré. C'est comme ça que ça fonctionne.
Oui, la créativité humaine fonctionne aussi comme ça.
Oui, mais tu peux pas arriver, on va dire, à scanner ton cerveau. Par contre, une IA, tu peux arriver à dire, ben voilà, il a piqué ça, ça et ça et ça donne ça. Je pense qu'il y aura juridiquement, il y a des trucs qui vont se passer là-dessus.
L'histoire de l'art passe sa vie à scanner le cerveau en disant qu'un tel Manet est inspiré par machin qui lui-même descend. Toute histoire de l'art, c'est justement ces filiations entre des courants qui s'entrecroisent. Donc c'est vraiment établi dans la créativité artistique auquel prend part aujourd'hui Dali et Midjourney. Ça s'inscrit dans une logique d'héritage culturel qui est mâché et recraché, qui est déjà établi depuis les hommes des cavernes.
Alors, ce qu'on voit aussi, Nicolas va donner la parole dans quelques instants, mais ce qui est intéressant avec Bria, donc, c'est que Bria, c'est une solution qui fait comme elle peut aussi. C'est, autrement dit, il se présente en fait comme un outil de reverse engineering, mais basé sur la, on va dire, les bases de données avec lesquelles ils ont passé un accord. Donc, autrement dit, si par exemple, vous utilisez Bria, vous prenez une photo et que vous demandez, on va dire, enfin, si plutôt vous générez une image avec Bria et qu'ensuite vous dites bah, c'est quoi les origines de cette photo, il va être capable de le faire. Si maintenant vous prenez une photo de Midjourney et que vous le passez dans Bria, Bria ne sera capable que de reconnaître les photos qu'il a lui-même en stock, on va dire, qu'il a indexées, et il ne sera pas capable d'aller plus loin. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une grosse limitation, déjà. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une course à celui qui aura la plus grosse base de données. Celui qui sera capable de dire, ben voilà, je suis le référent qui est capable de faire du reverse engineering sur la génération de vos images. Vous imaginez bien que des gens comme Midjourney ou comme OpenAI ne vont pas laisser passer l'histoire. Sachant que de côté OpenAI, Sam Altman a déjà dit qu'ils allaient intégrer et Adobe aussi, vont intégrer des filigrades, on va dire, quasiment imperceptibles, voire totalement invisibles, mais qui seront quand même codés dans la photo pour pouvoir, ne serait-ce qu'à minima, savoir si c'est du fake news ou pas, enfin, si c'est du deep fake, autrement dit, une production issue d'une IA ou pas, mais ça ne donnera pas forcément l'origine de cette IA, de cette inspiration de photo, pardon. Et puis, tu le disais, Bertrand, par contre, pour les mots, là, oui, alors là, c'est impossible. Enfin, Altman lui-même reconnaît que c'est extrêmement compliqué, que ce sera extrêmement compliqué. Donc, il y a quelque chose qui va se passer, effectivement, autour de ça. Soit il y en a un qui va réussir à émerger en se disant, ben, moi, j'ai la plus grosse base de données, qui permet donc de minimiser, on va dire, l'erreur sur l'attribution des photos qui constituent une image faite par une IA. Soit il y aura des solutions maison chez chaque acteur, et comme il va y avoir un petit nombre d'acteurs qui va arriver à s'imposer, ben, on fera avec ça. Ça sera un peu une sorte de DRM quelque part, hein, rappelez-vous, la grande époque des MP3 et des DRM. Ou bien ce sera, comme tu le disais, Fabrice, l'idée de dire, bon, écoutez, nous cassez pas les pieds, on va faire comme avec les MP3 à l'époque. Comme on ne sait pas d'où ça vient, eh ben, on va mettre un pourcentage de taxe, hein, c'est la redevance disque dur, qu'on continue à payer d'ailleurs, alors qu'on n'en a plus besoin a priori.
Le pourcentage, il est très probable qu'il y ait une forme de paiement qui soit une taxe. Hein. Après, la clé de répartition, ça va être l'objet
de négociations.
De négociations au niveau international.
Oh, bah oui, tu m'étonnes.
Est-ce qu'il va y avoir un système mondial ou est-ce que ça reste encore à voir, hein. On a quand même quelques années de grandes batailles dans tous les sens, aussi bien entre États qu'entre entreprises. OpenAI et compagnie, mais aussi Getty Images, Disney et compagnie. Il y en a pour quelques années avant d'arriver à ne serait-ce que quelque chose à une proposition qui tienne à peu près la route. Mais c'est le début, et c'est intéressant parce que dans la mesure où il y a une quantité faramineuse d'imagerie qui va être produite par de l'IA dans les années qui viennent, ça va nécessairement détourner des flux de revenus considérables, absolument considérables.
On va prendre un cas très concret avant de laisser la parole à Nicolas. Joseph a généré, je vais vous partager l'image dans le space. Joseph, pardon, a partagé une image où il dit voilà ce que Dali 3 imagine quand on lui demande de dessiner les éclaireurs du numérique. C'est beau. Je ne sais pas quelles sont les inspirations, mais c'est beau. Vous la voyez l'image ou pas?
Alors,
c'est pas mal.
Une retraite au flambeau, ouais, avec les vannes que j'ai fait tout à l'heure, c'est raccord.
Moi, je note un truc que j'aime beaucoup, c'est le côté, la double lune avec ensuite cette pluie de données qui rappelle un peu Matrix, croisée avec tous ces gens qui vont vers la lumière, et puis un genre de.
Non, mais c'est super chouette.
De dessin un peu bizarre, on sait pas trop en bas ce que c'est le filigrane, on dirait des filigrames de circuit imprimé. Moi, j'aime bien. Je sais pas quel est le prompt que tu as utilisé, mon cher Joseph, mais partage-le nous par tweet. C'est plutôt sympa. Nicolas, tu voulais dire quelque chose?
Y a toujours quelqu'un qui va arriver avec une idée dégueulasse et j'aime bien être le porteur de mauvaises nouvelles. Savez-vous qu'il existe un outil qui s'appelle Nightshade et qui va rendre vos images vénéneuses? C'est-à-dire, c'est un truc qui va tromper les IA. Où normalement, l'œil va voir un chien, par exemple, mais une IA verra un chat. Ouh. Et donc, ça va un peu niquer les bases de données pillées. Ça rappelle, pour les plus jeunes d'entre nous, À l'époque où Foursquare était un réseau social de lieux géolocalisés, il y a des gens qui s'amusaient à mettre des lieux fictifs, du genre, il y a un bowling en bas de chez moi,
oui.
Il y a une discothèque.
Je suis le bailleur du kebab en bas de chez moi.
Ouais, mais le fait de truffer une... j'utilise ce mot à dessein, parce qu'à l'époque, c'était Vincent Truffy de Mediapart qui faisait ça. Truffer les cartes de lieux qui n'existent pas, histoire de flinguer les algorithmes. Il y a manifestement des gens qui, n'ayant pas envie ou par malice, ont envie de piéger les IA génératives d'images. Et je trouve ça marrant que finalement, la nature trouve toujours un chemin, même s'il est vénéneux.
Alors, tu me fais penser à un truc, à deux choses. D'abord, tu me fais penser à, vous l'avez peut-être vu, vous savez, à l'époque des masques là, de Covid, mais encore aujourd'hui, vous pouvez mettre, il y avait des masques qui, notamment en Chine, qui avaient pour objet d'essayer de détraquer les algos de reconnaissance de visage. Vous savez, vous avez un masque, en fait, et enfin, sur le masque, il est imprimé un bas de visage qui n'est pas le vôtre.
Ça fait des lignes un peu bizarres, etc.
Voilà.
Ça brise les perspectives, tout à fait.
Voilà. Et donc, ça empêche le système de reconnaître. C'est un truc qui me faisait penser à ça. Le deuxième truc, je ne sais plus, ça m'a échappé, ça va revenir. Le temps que je vous lise le tweet de Batmax qui dit, et pour les IA qui codent, c'est quoi votre avis là-dessus, les risques, etc., etc. Vous en pensez quoi, messieurs, des IA qui codent? Moi, je dis juste un truc sur les IA qui codent. Moi, sur les IA qui codent, je dis juste un truc, c'est que l'autre soir, avec la présentation d'OpenAI, les nouvelles versions qu'ils ont présentées de codage en no-code de certains petits chatbots, en gros, en creux, c'était assez surnaturel, si vous y réfléchissez bien. En fait, vous aviez une salle de développeurs qui était en train d'applaudir un mec qui était en train de leur expliquer qu'ils allaient crever.
Sympa.
Voilà. Bon.
Moi, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus pragmatique et quotidien. C'est un pote qui s'appelle Khalil Ben Osman, que vous connaissez peut-être, qui code donc depuis, oh mon Dieu, des années et des années, et qui code aussi bien dans la crypto que des trucs beaucoup plus terre-à-terre du genre du WordPress, mais du Guoro WordPress ultra-customisé pour des gros clients corporate. Et il m'a raconté comment il avait intégré ChatGPT comme, pas vraiment un binôme, plutôt un stagiaire dans ses activités de développement autour de WordPress. Qui est un truc qui le fait chier parce qu'au bout d'années et des années, on a des choses plus amusantes à faire quand on fait du code. Et donc la partie WordPress de son activité lui prenait la tête, mais en même temps apportait de l'argent, il la conserve. Sauf que depuis quelques mois, il a intégré ChatGPT. Et c'est spectaculaire, selon ses propres... Alors, il m'a expliqué dans le détail comment il coachait en quelque sorte ChatGPT, comment ça faisait des conneries, mais que si tu le reprenais, au final, au bout d'un moment, c'était finalement très efficace, et puis qu'il fallait quand même y investir pas mal de temps avant de vraiment tirer parti de l'outil. Mais à ce stade, après 3 mois d'utilisation, ce qu'il me dit, c'est qu'il a multiplié sa productivité par 4 à 5. Donc, c'est vraiment spectaculaire comme... augmentation du fait de l'IA. Et c'est pas tant que l'IA code, il est devenu coacheur d'IA qui code pour l'essentiel. Et c'est x5 en productivité. Donc je pense que c'est un secteur qui va bouger très vite et très fort. Parce que si tu es dans une SS2I et que tout d'un coup ta productivité elle est multipliée par 5, tu vas aller voir ton patron, tu vas demander une augmentation tout de suite. Quoi. À moins d'être complètement con, et a priori si tu codes, tu sais faire ce genre de calcul. Du coup, on a un modèle économique de la SS2I qui va être très, très, très secoué. On a un modèle économique du freelance qui va être très, très, très secoué. On va avoir des disparités de productivité considérables qui vont arriver très vite entre ceux qui s'y mettent, ceux qui ne s'y mettent pas. Mais on va aussi avoir un marché qui est limité. Donc, si on multiplie par 5 la productivité du marché, évidemment, ce ne sera certainement pas 5 sur l'ensemble du marché. Hein. Mais si on la multiplie ne serait-ce que par 2, la demande ne va pas être multipliée par 2. On n'est pas vraiment dans une période d'hypercroissance. Donc je pense que le dev informatique et l'IA, c'est un truc dont on va reparler et qui va vraisemblablement faire bouger beaucoup, beaucoup de lignes dans les années qui viennent.
Batmax, je vois qu'il nous dit maintenant, elles vont scraper les API, il lui semble. Je ne suis pas sûr de ça, donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Pour aller en complément de ce que tu dis, Fabrice, je pense que, comme de beaucoup de choses, il y a un marché qui va se diviser en deux avec une grosse fracture, c'est-à-dire... Autrement dit, d'un côté, ce que tu viens de dire, c'est en gros des bons devs qui déjà à la base sont bons et qui, on va dire, vont magnifier leur art en arrivant à être plus efficaces et plus performants. Et de l'autre côté, De l'autre côté, à l'autre bout, tu vas avoir du no-code. C'est en gros pour des trucs, genre tu veux te monter un WordPress, mais tu sais pas trop comment faire aujourd'hui. Et ben un peu à l'instar des GPTs, qui sont donc les genres de petits chatbots que tu peux créer juste en dialoguant avec ChatGPT. Hein. Nous, on pourrait faire le chatbot des éclaireurs, quoi. Eh bien, on pourrait imaginer que demain, en gros, vous n'ayez plus besoin d'un développeur pour le faire, mais plus quelqu'un qui va être capable de savoir quelles sont les bonnes infos à lui injecter. Mais le reste, ce sera fait par la machine. Et je pense qu'il va y avoir deux extrémités, en plus pour une question de budget, tout ça, tout ça. Et au milieu, un grand no man's land.
Oui, ça va bouger. J'ai aussi rencontré dans le même genre un illustrateur qui s'était mis à toute une palanquée d'outils de génération d'images, dont vraiment Dali et Midjourney sont les plus connus. Et lui, s'était aussi positionné en finalement directeur de création avec de l'IA comme petite main. Et ça donnait des trucs assez fantastiques. Le mec touche sa bille aussi bien dans les outils d'IA que dans les outils traditionnels de graphiste, de cinéaste. Et ça donne des résultats assez décapants, mais lui aussi s'était mis dans une position de directeur de création, plus directeur artistique. Il y a vraiment des métiers qui vont profondément bouger, et du fait qu'il y a des gens qui trouvent une façon de travailler avec l'IA, en bonne intelligence, où l'homme a sa place et du coup la machine prend la sienne, ça donne d'ores et déjà des résultats très très intéressants et qui promettent vraiment de faire bouger énormément les lignes dans les processions créatives d'une façon générale. Ça va faire beaucoup bouger les lignes.
Justement, on a François Lamotte qui nous dit que. Qui te dit à toi, Fabrice, que c'est déjà ce qu'on fait que x4 et x6 en productivité. Tandis que Batmax, lui, nous dit qu'effectivement, il confirme bien, et c'est vrai, tu as raison, je me rappelle maintenant Batmax dans la conf d'OpenAI. Effectivement, oui, ils vont scraper et travailler avec les API.
Lamotte, rappelle-moi, tu es dans quel domaine de l'IT? Enfin, balance-nous un tweet, hein, ça m'intéresse.
Alors, ça va arriver. Oui, effectivement, donc pour revenir sur le temps que François nous réponde, juste pour revenir à ce qui est dit, effectivement, avec le Batmax nous envoie plusieurs tweets en me disant que, donc il y a oui, une démo. Je vous conseille vraiment de regarder la conf qui a été faite lundi à 19h, heure française par donc Sam Altman. Elle était vraiment brillante. D'abord, c'était la première conférence de développeurs que faisait OpenAI. La deuxième, c'est que ça fait même pas un an que ChatGPT existe. Quand vous regardez le nombre d'utilisateurs et le nombre d'innovations qu'ils ont sorties, de nouveautés, c'est bluffant. Les mecs sont pieds au plancher. Je veux dire, c'est au taquet. Ils se sont même payés le luxe de recevoir Satya Nadella sur scène, histoire de bien rappeler qu'il y a bien des liens entre Batman et... Batman.
Batman et Robin.
Entre le Batman et le Joker. Entre Batman... Entre...
Altman.
Entre Altman... Et Satya Nadella. Je vous laisse deviner qui est Batman, qui est Robin ou qui est Batman, qui est le Joker. Mais dans tous les cas de figure, effectivement, c'était vraiment intéressant ce qu'il racontait. La démo, moi, j'ai trouvé bluffante, la démo des GPTs. Et franchement, j'attends qu'une envie, c'est de pouvoir jouer avec. Hein. Vraiment, ça m'intéresse vraiment. Et je pense que sur tout ce qui va être assistant, et notamment assistant donc intelligent au sens chatbot, mais qui marche, quoi. Si vraiment vous êtes malin sur ce que vous lui injectez, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant, surtout que, pour ceux qui n'ont pas vu la conf, les GPTs, en fait, donc c'est des mini chat GPT pour vous. Donc vous pouvez imaginer de vous faire votre Jarvis, quelque part, un peu, hein, si je caricature, si vous lui injectez les bonnes données. Et surtout, vous pouvez quand même, en plus de ça, lui donner un contexte. C'est, en fait, vous pouvez lui dire, tu es un assistant codeur, par exemple, et vous pouvez aussi lui donner lui laisser des attributs au sens des plugins activés, du genre tu peux aller chercher sur internet, tu peux prioritairement utiliser tel plugin, et donc tout ça mélangé, tout ce petit cocktail là vous donne un chatbot, j'aime pas le terme intelligent, mais tout au moins un chatbot qui peut vous aider, et tout ça en no code, juste en discutant avec la machine. La démo était bluffante, j'attends de voir ce que ça donne.
Bon, on a un petit peu glissé du sujet de l'attribution, et c'était intéressant d'ailleurs pour aller sur ce sujet-là du code notamment. Alors, Bria AI permet de l'attribution donc sur les photos au départ. Peut-être demain, une technologie qui pourrait permettre simplement de valider ou pas une photo en disant elle est faite par une IA ou elle n'est pas faite par une IA. Je ne sais pas du tout si c'est l'objet de ce qu'ils pourront faire ou pas demain, mais il y a quelque chose qui me semble intéressant, c'est que là, on parle d'attribution pour les photos, mais qu'on peut imaginer qu'assez rapidement, la technologie grandissant, celle de Bria AI ou d'autres, on va arriver sur la vidéo. Et c'est là que ça devient vraiment plus intéressant, oui. Avec les deepfakes notamment, parce que là, on est face à un danger qui est quand même assez mortel pour nos démocraties et nos systèmes de sécurité, qui est qu'on peut avoir des deepfakes en pagaille, en vidéo, qu'il y a déjà des deepfakes, mais que ça va encore se multiplier. Et si on a une technologie qui permet de dire, attention, ça a été pris là, et qu'on remonte un petit peu la fabrication de la vidéo, et qu'on, d'une certaine façon, qu'on labellise le fait que cette vidéo n'est pas vraie, on peut peut-être arriver à sauver les meubles dans certaines situations. Je ne sais pas si vous voyez la possibilité, vous aussi, d'une technologie qui pourrait nous aider quand même à nous sortir de mauvais pas grâce à cette remontée en fait, de la fabrication des deepfakes.
Ben, il y a tout un tas de technos qui essayent, grosso modo, de
le faire,
d'identifier le vrai du faux. C'est la course à l'échalote. Et on peut imaginer que il y aura la course des deux côtés. Donc, il y aura toujours la possibilité, en tout cas à un moment donné, de fabriquer un faux qui ne soit pas détectable, en tout cas pour une période de temps. C'est la règle de la course à l'échalote technologique qui veut ça. À côté de ça, il faut quand même bien remarquer, et là, depuis un mois, on est en plein dedans, que le rapport au fait, à la vérité, est en train de prendre une place assez secondaire avec la réaction émotionnelle au fait et à la vérité. Donc l'idée que du fait qu'on détienne la vérité au sens scientifique du terme, on puisse remporter un argumentaire est en train de s'éroder. Vraiment est en train de s'éroder. Donc ce sera un objectif d'avoir ces technologies. De toute façon, la course est lancée. Hein. On aura plein de technologies avec tous les problèmes de faux positifs que ça donnera. Mais on change de toute façon notre rapport à la réalité. L'intelligence artificielle, elle arrive pile au même moment de l'ère de la post-vérité chez Trump, chez nos amis américains, qui était il y a 5 ans. Les Américains, ils ont décroché il y a 5 ans avec Trump. Nous, on est en train de décrocher dans ce rapport à la vérité. Il se passe vraiment le même phénomène en France avec 5 ans de décalage. Et nous, ça arrive en même temps que mid-journée. Donc on risque d'avoir un double impact en fait. L'impact du fait que à chaque fois que tu verras une image qui te semblera quand même très impactante, si elle ne sert pas ton narratif, tu vas de plus en plus avoir le réflexe de dire « Ah, c'est sans doute un faux ». Et ça, c'est super dangereux. Et puis, une autre façon d'utiliser ça, qui est que tu peux exprimer une forme d'inconscient à travers un prompt et en faire une image qui soit émotionnellement impactante. Et donc t'en servir pour transmettre une émotion et donc pour faire de la manipulation, du mensonge, tout un tas de choses. Et ça, c'est pour des gens comme moi qui s'intéressent au même, ça ouvre un champ de communication absolument dingue et de la communication à titre individuel. Tout un chacun peut, avec quelques prompts, tout d'un coup faire un truc super impactant. Je pense à cette image que nous a pondue d'Ali Joseph Engustic. Qui est super mini et qui est juste, voilà, je vais projeter un imaginaire, je vais me faire aider par une IA, voyons voir ce que ça donne et comment je peux raffiner pour avoir un truc qui se rapproche de quelque chose qui reflète mon imaginaire. C'est un outil de communication donné dans les mains de tout un chacun qui est incroyable, absolument incroyable. Donc on sort de notre ère, de 2 millénaires, de je crois ce que je vois, Saint Thomas, et de 1 siècle de l'appareil photo, le phonogramme, qui est que j'ai un dispositif technique qui peut faire office de preuve de la réalité d'un fait qui a été enregistré. C'est fini.
Je vais dans ton sens. Un exemple tout bête, mais que j'ai expérimenté avec mes étudiants la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui a été filmée où on voit Macron marchant à Paris, sur les quais de Seine. Vous l'avez vu cette vidéo ?
Oui, dans les usines.
Voilà, Rémi Buzyn. Oui, mais je fais exprès de dire pas Rémi Buzyn dans un premier temps pour dire il y a cette vidéo qu'on a vue. Et moi, le premier, je l'ai vu, j'ai pas fait gaffe à qui elle était attribuée. Et pourtant, et donc, quand je vois la vidéo, mon premier réflexe perso, je fais, oh, c'est vrai ce truc, mais pas, vous voyez, genre, pas de manière, comment dirais-je, péremptoire. Je me pose la question de la vérité de ce truc-là. Donc, déjà, dans ma tête, ça peut être faux. Et je vois des commentaires, mais particulièrement péremptoires, de personnes qui n'ont aucune idée de si c'est vrai ou faux, et qui disent fake news, ou c'est faux, c'est pas possible. Oh, c'est vachement bien fait maintenant les montages. Et vraiment de manière, et qui commencent à argumenter. Jusqu'à ce que Rémi Buzine, journaliste chez Brut, dise bah, c'est ma vidéo, en fait, c'est moi qui l'ai faite.
Ouais, je me suis fait avoir aussi.
Et truc très amusant, c'est que là, vous avez les gens qui, deux secondes avant, écrivaient de manière péremptoire c'est faux, qui dit ah ouais, bah écoute, c'est fou quand même. C'est... Alors, vous avez deux écoles. Vous avez très très minime. Vous avez non, mais je te crois pas, en plus, t'es journaliste, donc voilà quoi. Okay, bon, admettons, mais quand même la très 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 grande majorité, c'est ah mais c'est fou quand même cette vidéo, ah c'est toi qui l'as prise, mais c'est dingue. Donc on passe de quelqu'un qui deux secondes avant n'avait pas du tout la moindre idée de ce que ça pouvait être, mais qui projetait de manière péremptoire une vérité qui n'était que son opinion ressentie, et quand quelqu'un lui dit mais c'est moi qui l'ai prise en photo, en vidéo, et encore c'est parce que c'est Rémi Buzine qui en gros est journaliste connu de Brut et plutôt apprécié. Ça aurait été un lambda.
C'est pas un journaliste, c'est un journaliste à GoPro. On peut pas dire qu'il soit apprécié. C'est le genre de journaliste qui se prend des lambdas.
Quand je dis apprécié, j'ai vu Rémi, j'ai vu Rémi émerger.
Il a mis du temps.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il il a micro truc. Quand je dis apprécié, c'est au sens où dans les trucs de type gilet jaune, etc., c'était un des rares qui se faisait pas casser la gueule parce que justement il. Voilà, il arrive et il reste à hauteur des gens et il laisse parler. Je ferme la parenthèse. Et donc, le fait est que, donc, moi, ce qui m'a fasciné, si je puis dire, c'est de voir des personnes qui ont une opinion, mais qu'ils érigent comme un fait. Et jusqu'à ce que quelqu'un leur dise, mais non, mais c'est moi qui l'ai fait. Et que la personne dit, ah, mais ouais, mais alors c'est fou. Et puis après, vous allez voir un truc génial. Après, vous allez voir des gens qui disent, non, mais c'est pas possible, parce que si on regarde bien l'image, on voit que machin, etc. Bref. Tout ça pour dire que moi, j'avais mes étudiants, et j'ai des étudiants qui m'ont dit, mais monsieur, c'était vrai ou pas, alors, cette photo, cette vidéo? Je dis, ben oui, quand on regarde bien, oui. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je leur disais ça, et puis derrière moi, j'avais la photo de Macron en train de vider les poubelles. Vous savez, à l'époque où il y avait les grèves des boueurs à Paris. Et qui est vachement bien faite. Et qui est vachement bien faite comme photo. Donc, comment voulez-vous arriver à faire quelque chose qui tienne la route à partir du moment où on peut douter de tout?
C'est impossible. Moi, je me suis fait avoir par cette vidéo de Rémi Buzine, parce que je l'ai vu avant qu'il revendique le truc. Et mon premier réflexe, ça a été de regarder avec attention le détour de
Macron. Ouais, moi, pareil.
Pour voir
chose,
si on voyait pas un truc. Et il y avait un machin qui me paraissait pas net. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, c'est un fake. Et puis, bon, c'est pas non plus. Ok, c'est un super trucage. C'est incroyable ce qu'on arrive à faire de nos jours. Next. Et effectivement, ça me paraissait invraisemblable que Macron se déplace avec deux gardes du corps seulement. Mais il le fait.
Alors, il y en a un peu plus.
Probablement un peu plus autour.
Oui, parce qu'apparemment, hors champ, il y a des gens qui étaient là qui disaient oui, en fait, il y a des mecs qui étaient 10 mètres en avant, 10 mètres en arrière de l'autre côté de la rue. Tu vois, c'était. Bon, voilà,
c'est sûr que sur la place Saint-Michel, il y a peu de chances qu'il y ait une émeute et que les gens te sautent à la gorge et t'entretuent. On n'en est pas là.
Deux choses. D'abord, réponse à ta question, Fabrice, de François qui nous dit le cœur de son activité, c'est le SEO. Beaucoup d'API interconnectées, beaucoup de production de contenu et on crée des lignes édito de milliers d'articles en quelques jours. Voilà.
Dans le SEO, c'est. Bah, quand tu ponds du contenu pour du contenu, c'est plus qu'un turbo.
Moi, j'ai une question pour toi, François, si tu veux nous répondre à l'écrit ou à l'oral. Et on va donner la parole à Nicolas, puis on fait gaffe à l'heure aussi. C'est. Est-ce que c'est le retour des fermes de contenu que Google avait réussi à bannir, les versions de tsunami et versions on va pas s'en sortir quoi, tellement ça va être bien foutu. Je te laisse répondre, François, et on va prendre la question de Nicolas. Nicolas qui s'est endormi avec la main levée en fait.
Non.
Tu avais une question.
Ah pardon, c'était pas une question, mais j'ai entendu, j'ai vu passer des messages de Éric Dupin, qui est le créateur de Presse Citron, qui disait que quand il avait des problèmes de WordPress, il faisait faire un plugin à ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT lui a fait les petits plugins d'adaptation qui vont bien, Et moi, j'ai vu un autre truc en agence de communication, c'est la génération d'images. Typiquement, quand on veut faire des phases exploratoires sur une publicité, un visuel, etc., auparavant, il fallait booker un créatif, il fallait lui demander un certain nombre de choses, et il nous pondait, au mieux, trois trucs avec lesquels il fallait qu'on se débrouille. Et ça mettait un certain temps. Là, l'immédiateté ou la quasi-immédiateté de la réponse et le nombre d'itérations de « alors, pareil, mais en bleu, le truc en plus grand » et ainsi de suite.
Oui, c'est beaucoup moins casse-couille que ça l'était quand il y avait un graphiste qui faisait le truc.
Bah, le graphiste, il se fait payer autant, et c'est compliqué pour lui de refaire tout. Là, une machine, ça ne s'ennuie pas, et une machine, surtout, ça travaille la nuit, si on veut. Et donc, c'est disponible tout le temps. Et en termes de création, créativité, ça restera un créatif qui va faire les trucs finaux, mais toute la phase exploratoire, moi, je l'ai vu en agence, pour des communications sur de la santé publique, les visuels sur des sujets qui sont déjà largement balisés, je vais dire des conneries, mais des trucs liés à la santé ou la prévention routière. Les phases exploratoires.
Je ne pense pas que la phase finale faite par l'humain, pour l'instant, c'est transitoire. Je pense qu'à terme, ce sera quasiment que de l'humain pour 80% du marché. À part L'Oréal, il y a une très large partie de ce marché-là qui va passer en full IA en termes d'imagerie.
Je te dis, moi, ce que j'ai vu.
Oui, ouais, j'ai vu des trucs similaires. Moi, j'ai vu des méthodologies de production de sites web, et là, on s'adresse à des gens qui, pour le coup, ont des budgets beaucoup plus faibles, où là, vraiment, tout l'habillage du site est généré par l'IA, une large partie des contenus est générée par l'IA, tout en étant dans une démarche de stratégie web, réfléchie, pensée. Mais c'est vrai que ça transforme des tonnes de choses sur les métiers créatifs d'une façon générale. Ça va être une énorme transformation dans les 10 ans qui viennent. Et ça a démarré dès à présent. Il y a des secteurs qui, du jour au lendemain, ont explosé en productivité grâce à ce truc-là. Le SEO, certains développements informatiques, pas tous, mais quand même pas mal de développements informatiques sont incroyablement facilités par ChatGPT. Il y a d'autres secteurs qui vont s'y mettre plus lentement. Il y a des pays qui vont s'y mettre, d'autres pays qui ne vont pas s'y mettre. Ça va être une essoreuse. Ça va vraiment être une essoreuse, aussi bien économiquement que socialement, que dans notre rapport à la vérité, que on va passer par des zones de grande turbulence.
Ça va, Bertrand ?
Oui, absolument. Je suis en train de préparer ma mignardise.
je regarde juste les derniers messages que nous avons. Fabrice. Pardon, François, je vais y arriver. Qui nous dit Google sort un core update par mois depuis août. IA intensif pour évaluer les qualités, la réponse aux intentions d'utilisateurs. Même en affiliation, il faut un niveau de code de qualité important, mais on peut couvrir toute la sémantique d'une niche grâce au graphe de connaissances. Et Batmax qui nous dit l'enfer de la gestion projet web, les retours créa. Putain, ça ne me manque pas. Je te comprends. 22h23, messieurs.
On passe au dessert ?
Allez, on passe au dessert, on y va.
On a eu l'entrée, 3 entrées, on a eu le plat de résistance. Maintenant, on passe au mignardis, c'est-à-dire à peu près tout et n'importe quoi. Chacun d'entre nous trois, Fabrice, Damien et moi, on va vous proposer un sujet qui n'a a priori rien à voir avec la technologie, encore que. Pour moi, encore ce sera que. Raté pour le coup. Et oui, Fabrice aussi, apparemment. Donc, on commence avec toi, Damien.
Ah ben oui, si tu veux, effectivement.
Il y a de la techno dans ton histoire, en plus.
C'est une série que j'aime bien. Il y a une série télé que j'aime beaucoup, et je pensais vraiment qu'elle allait s'arrêter à la première saison, parce que je la trouvais plutôt sympa, mais je suis pas sûr qu'il la continue. Bah si, c'est la 3e saison qui vient de sortir sur Prime Video. Ça s'appelle Upload. Alors, je ne sais pas si dans génial. La salle, certains connaissent.
C'est génial.
Ouais.
Je ne sais pas si certains connaissent, mais n'hésitez pas à lever la main ou de nous faire un cœur si vous connaissez cette série. Upload, pour faire simple, en fait, le principe de base, c'est de dire que dans tu peux être uploadé, on va dire ton corps, enfin plutôt ton esprit, peut être uploadé dans un métavers, voilà, pour faire simple. Donc, avant que tu ne meures, tu peux te faire uploader si tu as envie. Et dans ce métavers, en fait, tu as plein de gens qui y sont, et surtout, tu as des, on va pas dire des castes, mais on va dire des, ton niveau de vie est implicitement lié à ce que tu peux payer par mois, à ton abonnement, hein, tu sais, ton abonnement Facebook dont on parlait tout à l'heure. Et ben, si tu payes un abonnement cher, et ben, tu as une belle baraque, tu as une belle maison, tu as plein de trucs de dingue, tu as plein de vêtements. Si tu n'as pas de fric ou très peu, là, tu es au RSA. Et donc, par conséquent, le RSA, c'est un volume de data limité par jour. Et dès que tu as fini ton volume de data, eh bien, tu te freezes jusqu'au lendemain matin où ton volume de data est renouvelé.
Et tout ce que tu vois est très pixelisé en plus, hein, tout au long de la journée.
Tout à fait. Et dernier point, tu peux interagir avec le monde réel, on va dire, puisque finalement, bah, comme tu es dans une sorte de métavers, bah, y a des gens qui peuvent te dialoguer avec toi au travers d'un écran et discuter avec toi ou mettre des lunettes et dialoguer avec toi et faire la rencontre du réel et du virtuel. La série est très humoristique et à la fois, c'est là où je trouve qu'elle est très forte, elle pose de vraies, vraies bonnes questions sur l'éternité numérique, l'immortalité numérique, justement cette notion de data liée à l'argent qu'on peut avoir et quelque part ce qu'on peut se payer, etc., etc. Ça pose vraiment, bien sûr, le métavers, ça pose vraiment plein de questions et la série est vraiment sympa. J'ai pas encore regardé la saison 3, mais je vais de ce pas la regarder. J'avais beaucoup aimé les deux premières saisons. Je vous le conseille.
Et puis, il y a dans le rôle principal Andy Allo, qui est une chanteuse absolument géniale, oui. À part ça aussi. Donc voilà.
Bien vu, Bertrand.
Ouais. Fabrice, ta petite mignardise.
Ma mignardise va être très tech. C'est le Wallet ID européen. On a eu le top départ aujourd'hui ou hier, l'accord de la Commission et du Parlement européen pour lancer cette grande initiative. L'idée, c'est que chaque citoyen européen aura un wallet dans lequel il pourra mettre des tonnes de données personnelles, permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport, les visas qui sont dedans, votre extrait de naissance, l'accès à votre dossier médical, tout un tas de choses. Et que tout ça, vous pourrez le partager avec différents interlocuteurs. Donc typiquement, les cas d'usage, c'est tu as besoin de prouver que tu es majeur, tu vas pouvoir générer un QR code à partir de ton application que le videur de la boîte va pouvoir scanner et le QR code lui dira juste « elle est majeure ». C'est tout, rien d'autre. Tu n'auras pas besoin de donner ton nom, ton prénom, ta date de naissance, juste une preuve de majorité. Donc une certaine parcimonie dans la façon de répandre à droite à gauche ces données personnelles, ce qui est plutôt pas mal. Évidemment, si tu veux voir ton médecin traitant, là, tu lui partages beaucoup plus de données personnelles. Mais, en contrepartie, le fait qu'on va être infiniment transparent aux yeux de l'État. Donc, quelque part, l'État, enfin, pour le coup, plutôt de l'Europe, parce que c'est un système européen, va nous permettre de mieux définir les frontières de ce qu'on partage avec des tiers, les bilingues GAFAM et des gens comme ça. Mais, on va se retrouver tous, en tant qu'Européens, des entités qui fonctionnent dans un grand système commun. Ça va chapeauter France Connect et compagnie, et à terme, ça le remplacera complètement. Et il y a des France Connect et compagnie dans tous les pays européens aujourd'hui.
La question que je me pose, c'est le wallet qu'a développé la France, que moi j'utilise, que je bêta-teste depuis ses débuts, avec la nouvelle carte d'identité RFID. Je me pose la question, dans quelle mesure, et je ne peux pas croire qu'ils n'y aient pas pensé, ça va être compatible.
Écoute, compatible ou juste, ça va évoluer du jour au lendemain, tu auras une transition sur la nouvelle norme, ça je ne saurais pas très répondre. Mais en tout cas, l'usage que tu en fais, c'est une base. Hein, cette façon d'appréhender ton rapport à tes données personnelles à travers un wallet, ce qui est grosso modo ce que cette bêta te permet d'expérimenter, ouais, ça c'est quelque chose qui va être pérenne. Alors, petit truc drôle, l'Inde, qui est très très précurseur sur les identités numériques, qui a commencé son programme il y a un peu moins de 10 ans, mais vraiment qui est l'un des précurseurs. Il y a certains pays qui ont été très précurseurs. L'Estonie a été très très précurseur sur l'ID numérique.
Tout à fait, oui. L'Estonie,
incroyablement précurseur. Et ben, ils se sont fait tonner leur système. Ils ont 93% ou 92% de la population qui a son digital ID. Et ben, tout ça s'est retrouvé dans la nature et ils se sont fait pirater la semaine dernière. Il y a 1,3 milliard d'entrées qui sont à vendre sur le Darknet pour 80 000 balles. Donc on va avoir un test grandeur nature de ça fait quoi quand un aussi gros système de gestion d'identité se fait pirater. Parce que ça sera piraté. À un moment ou à un autre, ça sera piraté. C'est inéluctable. La seule question, c'est quand. C'est pas est-ce que ça va être piraté. Et on va avoir la réponse de c'est quoi l'effet dans les mois qui viennent en Inde.
Intéressant. Merci beaucoup, Fabrice.
Eh ben moi, je vais vous parler de notre petite milliardise dont vous avez tous lu des choses, d'ailleurs, sur lesquelles vous avez tous lu des choses aujourd'hui ou ces jours-ci, c'est AIPIN. Vous avez vu cette histoire-là, AIPIN, c'est la volonté de créer un badge qui pourrait remplacer le téléphone, le smartphone.
Oui.
Ça a été créé par Imran Chaudhry, pardon, qui est un designer qui a travaillé, je sais pas, 15-20 ans chez Apple, donc qui avait passé tous les derniers produits et donc tous les iPhones aussi, qui s'est barré et qui a décidé que le téléphone, le nouveau smartphone, n'aurait pas d'écran. Et c'est le cas, puisqu'en fait, cette AI PIN est une sorte de badge. Ça ressemble un peu au badge que vous avez dans la poche pour ouvrir votre parking, tout simplement. On le pose au niveau du cœur, à droite ou à gauche. Alors, quand c'est au niveau du cœur, c'est plutôt à gauche, a priori. Et on le pose à cette hauteur-là, comme un PIN normal. Et on va interagir avec lui. Il y a pas mal de choses sur cette machine, parce qu'il y a des capteurs de mouvement, de profondeur, il y a un appareil photo de 13 mégapixels, il y a un haut-parleur, il y a toute une zone tactile, parce qu'on interagit avec ça, tout ça sans écran. Hein. Et une grosse puce Snapdragon, il y a du Bluetooth, il y a du GPS, il y a la 4G, bref, il y a la totale jambon beurre de tout ce qu'on trouve dans un smartphone aujourd'hui, sauf un écran. Et là, ils ont imaginé quelque chose d'assez marrant, c'est que ça pouvait faire de la projection. Alors, il y a deux choses que je voulais dire là-dessus, parce que je ne sais pas du tout si, franchement, ça va remplacer le smartphone, $699 quand même, pour ce truc-là, qu'on va poser là. Et alors, si vous avez vu les pubs, vous avez remarqué que, enfin, peut-être, vous avez vu ça, il y avait beaucoup, beaucoup de pubs où on voit des gros plans, en fait, sur des femmes avec des décolletés assez vertigineux et ce pin posé à côté. Donc, on se dit, là, déjà, question MeToo, ils ne sont pas exactement dans la bonne époque. Pourtant, il y a une créatrice qui est la programmatrice Bethany Bongiorno qui est vraiment associée avec ce designer. Donc, on se dit, tiens, la com, c'est assez étonnant quand même d'aller communiquer autant sur des seins féminins pour un produit technologique. Je ne savais pas que ça se faisait encore. Et puis, il y a une autre chose, c'est que ça projette, en fait, sur votre main. Vous pouvez demander à ce pin de projeter sur votre main. Alors, c'est assez simple. Pour que ça projette sur votre main, vous montez votre main et vous la mettez, je sais pas, à 20 cm, à peu près au niveau du cœur. Et là, ça projette du texte dessus. C'est miraculeux. Ça fait exactement la même chose que quand vous avez la main au même endroit avec votre smartphone dedans, en fait. Donc, on se demande vraiment à quoi ça sert d'avoir fait une interface où on peut balancer trois mots, là, comme ça, qui se battent en duel. C'est même pas des images parce que sur une main, ça ressemble à rien. Trois mots, là, qui vont s'afficher sur une main. Pourquoi ne pas avoir été au bout de la logique et avoir complètement zappé la partie visuelle de l'histoire pour rester dans une dynamique d'interaction avec une IA de façon vocale qui, pour moi, est potentiellement, en tout cas, quelque chose qui peut ressembler peut-être à ce qui remplacera le smartphone. Mais là, c'est assez bizarre d'avoir fait ce truc-là. Mais enfin, on verra ce que ça donnera. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire-là et de sa potentialité, en fait.
Moi, je l'ai vu, cet outil. Je ne suis pas convaincu de l'ergonomie. Maintenant, je trouve que l'idée qui est intéressante, c'est que ça va au bout d'une philosophie qui est de faire disparaître l'objet technologique. Alors, il y a deux manières de le faire disparaître. Soit vous le faites disparaître au sens où vous le volatilisez, l'exemple que tu donnes, soit vous le faites disparaître parce qu'on ne le voit plus. C'est-à-dire, en gros, vous l'avez sur les yeux, par exemple. Et donc, vous ne le voyez plus parce qu'en fait, il est sur vos yeux, mais il vous rend service par rapport au fait que, comme un facehugger, il est sur votre gueule. Mais ça va dans cette direction-là. Après, vous avez tout ce qui est bien sûr puces neuronales et autres trucs embarqués que rêve de faire l'ami Elon Musk. Mais il y arrivera. Ouais, ça va dans ce sens-là. Je sais pas. Je suis pas convaincu. En fait, quand je l'ai vu le truc dont tu parles, j'ai plus eu l'impression, si tu veux, que c'était une sorte de pas de démo, mais de quasiment de pas de geste artistique non plus, mais en gros un prototype genre concept car, tu vois. En gros, on cherche une idée et on fait ça.
C'est pas très abouti, cette histoire de projection là. Ouais.
Concept car totalement improbable,
mais bon.
Dans l'absolu intéressante.
Mais par contre,
jamais personne conduirait un truc pareil.
Mais je pense que vraiment, effectivement, les gens vont dans. Enfin, la techno va dans le sens de un jour se volatiliser ou être la plus miniaturisée possible. pour être intégrés dans des objets du quotidien, les lunettes ou autres, soit carrément volatilisés, comme le cas de ce que tu donnais.
Parce que moi, je crois à un objet qui peut être comme ça, un objet qu'on a dans la poche, et un tout petit objet qui intègre toute la technologie, et peut-être, pourquoi pas, des projections via des supports de lunettes, mais sur des supports physiques, c'est sur un mur, sur une table, sur ce qu'on veut, à peu près, et, mais avec une vraie qualité visuelle, quelque chose qui soit sympa, et qui commence à ressembler, de près ou de loin, à l'expérience qu'on a sur un ordi ou sur un téléphone. Tandis que là, on a quelque chose avec une projection de texte assez minable. Je ne vois pas pour l'instant l'intérêt. L'idée est pas mal, mais c'est work in progress, on a l'impression quand même. Hein. Voilà.
Ouais, moi, j'avais vu. C'était la voiture qui est exposée dans un salon automobile avec un tableau de bord complètement improbable, un système de siège étrange, mais qui est juste du work in progress de gens qui réfléchissent et qui mettent en forme un truc qui n'est pas du tout mûr, mais qui leur permet de tester un peu la faisabilité, même pas industrielle, artisanale du truc.
Et puis j'ai une manière de montrer que tu es performant. Soit dit en passant, j'ai une petite mini-hardisque que je rajoute. Vous l'avez peut-être vu apparaître, mais Sam Altman, toujours de OpenAI, a dit qu'ils travaillaient officiellement avec l'ami Johnny Ive, le designer star, ex-designer star d'Apple, pour développer un objet qui serait un smartphone ou autre chose, qui intégrerait de l'IA. Et SoftBank aurait mis de l'argent dedans. Voilà, on n'en sait pas plus, mais il y a quelque chose qui se passe là aussi. Tu parlais d'IA tout à l'heure, Bertrand.
Il se trame quelque chose parce que l'iPhone, qui est un modèle génial en soi, a vécu quoi. Il faut passer à autre chose. Donc on attend avec impatience en fait la prochaine génération.
Le Vision Pro.
Et vraiment la prochaine étape qui va marquer une rupture par rapport à ces smartphones. Là, on est arrivé un peu au bout de l'histoire avec les smartphones. On voit bien. Donc il faut passer à autre chose, mais on ne sait pas encore exactement quoi. Mais
ça, pliable, le roulable.
Il y a des gens qui le roulable, mais c'est la même chose en mieux. Enfin, c'est finalement la même chose. Ça n'a pas un grand intérêt.
Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Bon, il est 22h36, on est arrivé au bout, je crois.
Mais j'ai l'impression qu'on a fini. Alors, petit café offert par la maison. Tiens, on vous offre le café. On a
fait un petit café à vous offrir pour la maison. On ne le traitera pas, mais on l'a vu sortir tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en fait, le France Diplomatie a officiellement dit, sur la base des investigations de Viginum Gouv, donc, qui est la vigie numérique, on va dire, du gouvernement, que il y avait, vous savez, l'histoire de David dans Paris. Eh bien, en fait, il y avait une amplification, on va dire, sur le réseau Twitter de 1095 bots sur la plateforme X, qui avaient amplifié et déformé, ou au moins diffusé des messages qui avaient pour objectif d'influer, on va dire, sur les messages et la politique globale autour de ce, et faire peur, autour de cette information-là. Et c'est une des premières fois qu'on voit, on va dire, une confirmation officielle d'une opération de déstabilisation russe, juste quelques jours après qu'elle soit apparue. Voilà, je vous partage, vous le lirez.
Qu'on a de très forts soupçons sur une amplification, mais alors là, beaucoup plus réussie, des punaises de lit par les Russes. Qui ont réussi à amplifier l'information au point d'en faire une information internationale.
Bah, ouais, c'est une info, ça.
Non. L'ouverture des JT aux quatre coins de la planète est punaise.
Bah, excuse-moi, non, c'est ça. J'ai envie de te dire, j'ai l'impression que c'est aussi fake que la vidéo de Rémi Buzyn. Là. Attends, c'est quoi cette histoire?
C'est une opération, je mets du conditionnel, hein, mais qui serait en large partie orchestrée par les Russes, qui consiste à partir de l'anecdote des punaises de lit, enfin de la psychose française des punaises de lit, qui aujourd'hui, on n'en parle plus, a réussi à amplifier la news et en faire un sujet de JT aux quatre coins de la planète, parce que c'est vrai que Paris, les rats, les punaises, quelque part, ça peut faire parler dans plein d'endroits, et ça peut effectivement abîmer les revenus liés au tourisme. Et tout ça aurait été en large partie amplifié par Poutine. Ce qui correspond vraiment totalement à leur modalité d'action, hein, qui sont d'être opportunistes, de surfer sur des choses, d'aller dans le sens du vent et d'accompagner le vent quand il y en a, que ce soit pour souffler sur les braises de la haine anti-France en Afrique subsaharienne et ailleurs sur le continent africain, que dans ce cas de figure, pour prendre un truc qui est réel, mais vraiment souffler pour en faire un énorme incendie. C'est tout à fait dans les tactiques russes.
Je finis le pouce café, c'est François qui nous le dit. François nous dit que Steve Wozniak est mort, alors a priori non.
Ah
ouais,
merde.
Wozniak a
oui,
eu
il
un
était malade, il avait
léger. Et il serait sorti, je vois une info qui date de Reuters, qui date de 17 minutes, il serait sorti de l'hôpital après une attaque cérébrale mineure. Voilà, je vous donne l'information. Donc non, il n'est pas mort.
Ah, donc il n'est pas mort.
Mais ça me ferait de la peine, parce que c'est le vrai génie d'Apple derrière Steve Jobs. Ou au côté plutôt, mais effectivement, il a eu une alerte sérieuse de santé.
Est-ce que voilà. Tu es prêt quand même pour une petite rubrique nécrologique vite fait?
Allez, vas-y, on va finir là-dessus alors.
Aujourd'hui est mort Omegle. Omegle, l'un des piliers de l'Internet aléatoire, où on rencontrait quelqu'un, c'est l'avatar américain de Chatroulette, on rencontrait quelqu'un tiré au sort sur la plateforme. La plateforme vient de mourir, elle aura connu de belles heures, notamment, moi j'étais en chasse d'un personnage mythique que je n'ai jamais trouvé, qui s'appelait The Do. Vous le retrouverez sur YouTube, qui en fait est un guitariste de génie ultra talentueux et qui se permettait par exemple d'arriver, alors les gens le voient avec une guitare Hello Kitty, et en fait il joue divinement bien, c'est une brutasse. Et il y avait ce côté un peu drôle de, finalement on passait de webcam en webcam. Moi je suis déjà tombé sur un faux pendu, des gens à l'autre bout du monde, et puis voilà, c'était l'internet de la rencontre aléatoire qui vient de mourir. Adieu.
Ok, c'est le chat roulette américain. Effectivement, je suis en train de lire leur épitaphe sur leur site, omegle.com. On ira voir ça. On va finir là-dessus, messieurs.
On finit là-dessus. En vous remerciant vraiment d'avoir été là depuis le début. Et puis encore, désolé pour ce petit ratage de quelques minutes au début qui aura disparu miraculeusement.
On va tester.
Ce que vous allez pouvoir retrouver en replay et partager en replay dans les jours qui viennent. Parce qu'évidemment, tout ça, on l'enregistre et on essaie d'en faire un podcast. Comme d'autres podcasts, on en est à plus de 150 numéros et on parlait de manipulation russe il y a quelques secondes. J'ai fait une interview de David Collomb il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, qui est un spécialiste de la manipulation, qui a écrit des bouquins là-dessus et qui parle des manipulations d'État dans son dernier livre. Donc, vous pouvez aller écouter ce podcast et plein d'autres, en fait, qui sont faits par les éclaireurs et qui sont tous disponibles. Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Damien.
Écoute, oui, à très vite. Donc, je partage pour ceux qui ne sont encore avec nous et qui sont bien restés jusqu'au bout. Et merci à vous. J'ai juste partagé ce dont tu parlais, qui est le dernier épisode qu'on a enregistré, qui est l'interview que tu as fait de David Collomb. Voilà, je viens de mettre le lien en ligne si vous voulez regarder. Mm-hmm. Et sinon, vous pouvez le retrouver bien sûr sur la timeline X de des éclaireurs. C'était cool de vous avoir toutes et tous. C'était sympa. Comme d'habitude, c'était bien. On se donne rendez-vous quand? On donne rendez-vous ou pas? On ose donner rendez-vous ou...
Dans un mois.
On n'est pas sûr.
Mm-hmm. Ouais. On va dire dans un mois, le temps déjà de diffuser tous les épisodes enregistrés.
Voilà, on va dire trois semaines, un mois, un truc comme ça. On a du lourd qui arrive avec des belles interviews à venir. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à nous écouter sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Que votre plateforme de balado-diffusion préférée, allez écouter les éclaireurs du numérique. Sixième saison, quand nous commençons à être des vieux de la vieille de l'internet français, du podcast français. N'hésitez pas aussi à y mettre un commentaire si vous le désirez, ou des étoiles. Oui, je sais, ça fait un peu commercial tout ça, mais vous le savez, hein, ma pauvre dame, nous ne sommes pas financés. Nous ne demandons pas à l'être, mais en revanche, si vous pouvez donc, s'il vous plaît, non pas un ticket restaurant ou un ticket de métro, mais juste quelques étoiles ou un petit commentaire sympa.
Ou un sourire
à minima. Oui, mais ça se voit pas sur internet. Si vous désirez juste ça nous permettra de continuer à monter ou d'émerger sur les plateformes de balado-diffusion, et voilà, ça nous fera plaisir en plus. Et puis si vous n'êtes pas content, et ben engueulez-nous sur Twitter, voilà, on sera content de vous répondre. Voilà, s'il y a un truc pour finir qu'on essaiera de tester une fois prochaine, les enfants, là on s'est un peu raté là sur le démarrage, on retentera le coup. Et puis je vous promets quand même, d'ici quelques épisodes, on va arriver à faire aussi de la diffusion simultanée sur LinkedIn. C'est le challenge que je me suis lancé. On va arriver à faire un truc comme ça.
C'était le presque late show, et à l'heure qu'il est, on peut dire qu'il porte plus du tout son nom finalement. On est dans un horaire de début de late show, donc il va falloir qu'on change pour la prochaine fois, je ne sais pas. Enfin, presque late show numéro 3 au mois de décembre. Merci à tous.
On fait un vrai late show, pourquoi pas.
Ouais, écoute, on va rester comme ça, on finit pré-late show et on finit late show. Voilà, c'est plutôt pas mal.
Salut tout le monde.
Allez, salut, ciao, merci à vous, bye.